7h, 9h.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le lundi 1er juillet et trois sujets majeurs dans l'actualité. D'abord, le brevet des collèges, c'est aujourd'hui puisque l'épreuve avait été reportée à cause de la canicule, mais on vient de l'entendre avec Laurent. Il fait toujours chaud et nous suivrons les collégiens juste avant leur examen dans les journaux de 7h et 8h. 800 000 voitures et camionnettes interdites de circulation à partir d'aujourd'hui à Paris et Petite Couronne. Après les critères 5, voici les vignettes 4 qui sont interdites. À 7h45, je reçois Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, qui évoquera aussi l'encadrement des loyers qui intervient dès ce matin. Et puis à Bruxelles, on attend la fumée blanche. Conseil européen pour remplacer l'équipe actuelle, l'équipe dirigeante. Isabelle Horry, notre correspondante, est bien sûr à l'affût. À suivre aussi dans cette matinale, un coup de projecteur sur une profession qui n'en peut plus, les personnels de retraite et d'aide à domicile. Et puis 7h43, Jean-Michel Apathy reviendra sur cette expulsion musclée vendredi à Paris de militants écologistes. Voilà pour le programme. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller et pour vous informer. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h.
Lundi 1er juillet, bienvenue sur Europe 1, il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve.
À 7h, le journal Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Certains ont eu un week-end de plus pour réviser, d'autres ont dû repousser leurs vacances. Les collégiens passent donc le brevet. Ce matin, nous serons dans le Gard où le thermomètre n'est pas redescendu. Haro sur les voitures les plus polluantes, les vignettes critères 4 désormais interdites à Paris. Et puis toujours pas de fumée blanche à Bruxelles. Les dirigeants européens tentent de se mettre d'accord sur la répartition des postes clés. Isabelle Horry, qui a elle aussi passé une nuit blanche, nous attend sur place.
Interview politique à 8h15, Benjamin Griveaux, candidat à l'investiture La République En Marche pour la mairie de Paris, sera l'invité de David Doucan.
Europe 1.
Une bonne partie de la France respire enfin avec des températures de saison, mais pour les habitants de 13 départements du quart sud-est, c'est toujours la canicule. L'alerte orange est d'ailleurs maintenue. Dans le Gard, où un record a été battu, près de 46 degrés à l'ombre, les collégiens s'apprêtent à passer le brevet ce matin, comme dans tout le reste de la France, mais eux transpirent déjà d'avance et se demandent bien à quoi le report a pu servir. Reportage de Romain Oquet à Vauvert dans le Gard.
Dans la chambre de Léni, à la veille des épreuves, pas de manuel scolaire ouvert, mais sa valise, prête à partir. Dans la pièce, la chaleur reste étouffante, alors pour le collégien, le report du brevet ne règle pas le problème.
Ça m'énerve du coup, ça m'énerve beaucoup, oui. Parce qu'en plus, il fera la même température à peu près, donc ça va pas changer grand-chose. Bah, je pense que ça sera un peu la catastrophe quand même. On sera trempé, on aura chaud, je pense que les stylos vont glisser des mains. J'ai vraiment envie que ça se termine.
Léni grimpe dans l'avion dès demain, sa maman Bénédicte a réorganisé le voyage. Pour elle, il fallait reporter les examen à condition d'avoir pris quelques précautions.
On dit aussi que finalement le collège va fermer tout le week-end, ça va certainement être aussi une étuve, il n'y a pas de climatisation, il y aura des ventilateurs, pas sûr que les conditions seront meilleures que ce qu'elles auraient été la semaine dernière.
À la piscine municipale, d'autres collégiens sont moins préoccupés par les conditions de l'examen. Stéphane est au plongeoir.
C'est pour déstresser.
Le report, c'est surtout 4 jours de rab.
Ça m'a permis de réviser là où j'avais pas révisé du tout, donc oui, ça va être du bon. Et tant pis si je crève de chaud, ça fait rien. Ça.
Les collégiens auront au moins bénéficié d'une nuit plus douce, en dessous des 25 degrés.
Romain Oquet à Vauvert dans le Gard pour Europe 1.
En région parisienne, fin de l'alerte canicule, mais aussi la circulation différenciée.
Oui, en revanche, et c'est un hasard du calendrier, une nouvelle étape de la lutte contre la pollution. En ce 1er juillet, les voitures les plus polluantes sont désormais interdites à Paris. Celles avec des vignettes critères 4 et dans la métropole du Grand Paris, ce sont les critères 5 qui sont bannis lors d'Autriche.
Interdire les véhicules classés en critères 4 dans Paris à partir d'aujourd'hui, c'est supprimer environ 800 000 voitures de la capitale. Pour les camions, l'interdiction vaut pour tous les jours de la semaine et pour les voitures du lundi au vendredi de 8h à 20h. Et dès aujourd'hui, autour de Paris, dans 47 communes, ce sont les vignettes classées critères 5 qui sont interdites. Mais il n'y aura pas de verbalisation avant 2021. Dans 2 ans, les contrôles se feront via des caméras installées à l'entrée des villes, explique Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris.
C'est la vidéo-verbalisation, de telle sorte que les PV soient automatiques sur l'ensemble de la zone. Il y a quelques communes qui ne sont pas d'accord pour s'engager, mais ce n'est pas un problème. Dès qu'une voiture rentre dans la zone de la ZFE, forcément les caméras la capteront.
À l'approche des élections municipales de 2020, 40% des maires de la métropole du Grand Paris font en effet de la résistance. Pour le moment, ces maires acceptent encore que les véhicules avec une vignette critère 5 circulent dans leur commune. Berlin.
L'heure d'Autriche.
Et à 7h45, Emmanuel Grégoire sur ce sujet, premier adjoint à la mairie de Paris.
Parmi les changements du 1er juillet, un autre concerne également les voitures les plus polluantes. Le contrôle technique sera plus sévère pour les diesels et puis ce sera également le retour de l'encadrement des loyers à Paris, dispositif déjà appliqué entre 2015 et 2017.
Europe 1, il est 7h04.
Dans l'actualité également, Hélène Zélani, la polémique enfle autour des militants écologistes aspergés de gaz lacrymogène. C'était vendredi à Paris.
Oui, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, demande un rapport au préfet sur les modalités de cette évacuation controversée. Des images de l'intervention des forces de l'ordre ont d'ailleurs suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, Chloé Triomphe.
Sur ces images, un petit groupe de manifestants est rassemblé au milieu de la chaussée, assis bloquant la circulation. L'ambiance n'est pas tendue, les militants écologistes scandent des slogans, les CRS tentent tout de même de les disperser, quitte à les traîner de force sur le trottoir, mais aucun coup n'est échangé, aucune insulte ne fuse, on est loin de l'affrontement violent. Mais quelques instants plus tard, les CRS utilisent une autre méthode. Ce même petit groupe qui refuse d'obtempérer est aspergé de gaz lacrymogène à quelques centimètres des visages par des policiers qui longe le groupe calmement, presque méthodiquement. La scène a choqué, elle a été partagée durant tout le week-end sur les réseaux sociaux, provoquant des réactions en chaîne dans la classe politique. Hier, c'est Christophe Castaner qui est intervenu, mais cette fois pour demander des explications au préfet de police sur cette évacuation controversée, une demande de rapport administratif dont le contenu permettra de mesurer si cela mérite ou non de saisir l'IGPN, la police des polices.
Chloé Triomphe. Non, Nicolas Sarkozy ne reviendra pas en politique. L'ancien président, en pleine campagne de promotion pour son livre Passion, était hier soir l'invité de Laurent Delahousse sur France 2.
Ma place n'est plus dans la vie politique partisane. Et ce livre n'est pas un livre politique. Je n'ai pas de calendrier politique. Alors, je peux le dire jusqu'à la fin de l'émission. Vous pouvez me croire, pas me croire, mais on ne peut pas empêcher les gens, et je leur suis très reconnaissant de cette fidélité et de cette sincérité. Mais aujourd'hui, ma place n'est plus là. Elle n'est plus là définitivement. Parce que dans la vie politique partisane, si je revenais, ça amènerait de la confusion et il n'y en a vraiment pas besoin.
Nicolas Sarkozy qui a également estimé qu'Emmanuel Macron avait eu l'habileté de donner le sentiment aux électeurs de la droite qu'il pouvait être une réponse.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani, direction Bruxelles, où les dirigeants européens tentent toujours de trouver un accord sur les postes clés, notamment sur la présidence de la Commission. A tout de suite sur Europe.
Il est 7h08, votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
La suite du journal avec Hélène Zélani, une nuit blanche pour les dirigeants européens à Bruxelles.
Oui, ça fait maintenant 13 heures qu'ils négocient sur la répartition des principaux postes au sein de l'Union. Vous l'attendez, la fumée blanche, Isabelle Horry, mais toujours rien.
Et non, toujours rien. Et pourtant, il y a eu des conciliabules toute la nuit. Alors pour comprendre ce qui coince, il faut revenir un peu en arrière. Tout commence avec ce que la presse allemande appelle l'accord des sushis. En marge du G20 au Japon, Angela Merkel et Emmanuel Macron esquissent avec quelques autres Européens un accord sur les principaux postes. Hier après-midi, ils arrivent donc avec ce paquet japonais dans leur bagage. Mais surprise, la chancelière allemande reçoit alors un accueil glacial dans sa famille politique. Certains dirigeants de droite sont vexés de ne pas avoir été consultés. D'autres refusent que la présidente de la commission soit promise à la gauche, au néerlandais Frans Timmermans. Bref, tout déraille et depuis, les Européens essayent de recoller les morceaux. À cette heure-ci, encore aucune certitude, si ce n'est que dans les prochaines minutes, les 28 doivent se rassembler tous ensemble pour la première fois depuis 23h hier soir.
Voilà, Isabelle Horry, vous n'êtes pas encore couchée en direct de Bruxelles pour Europe 1. Donald Trump a quitté Séoul après sa rencontre historique avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Ils se sont vus dans la zone démilitarisée entre les deux Corées et surtout le président américain a fait quelques pas en Corée du Nord. Une première qui laisse sceptique côté démocrate où on craint une séance photo plutôt qu'une réelle avancée vers la dénucléarisation.
On parlait du brevet au début de ce journal pour les candidats au bac, cette fois-ci peau et détente, en attendant bien sûr les résultats.
Oui, l'occasion pour certains ados de partir pour la première fois sans leurs parents, comme pour ces 10 filles élèves de première qui bouclent leurs valises pour une semaine en Bretagne. Ève Roger a pu assister aux préparatifs aux côtés de Camille, Justine et Jade. À quelques jours du départ, la discussion par messages vocaux est intense. Premier sujet, l'argent. Quel budget pour une semaine quand on est 10?
Moi, je pense que 150 euros dans le pot commun, c'est bon. Et ensuite, chacun ramène un peu d'argent pour toutes les sorties dehors, quoi.
Mais très vite vient la question qui les préoccupe vraiment.
Comment on va faire pour acheter l'alcool?
Réponse, économiser sur le dos des parents.
Ce qu'on peut faire, c'est ramener des pâtes et tout, qu'on aura avec la thune de nos parents. Du coup, on aura plus de thunes pour acheter de l'alcool.
Alors, les jeunes filles ne sont pas complètement inconscientes. Elles savent que boire trop est dangereux. Quelle tactique pour éviter que les soirées en boîte ne dégénèrent? Pour comprendre la suite, sachez qu'en langage ado, pécho veut dire séduire. Enfin, presque.
S'il y a des gens qui veulent se pécho et se rouler par terre dans la boîte, bah, qu'ils le fassent, quoi. Si il y a une meuf qui est un peu bourrée et qui se rend pas compte et genre qui part toute seule chez les mecs, tu vois, là c'est un peu plus compliqué.
Problème suivant, le retour de boîte quand on a trop bu. Là encore, teaser veut dire boire.
Ouais, mais les gars, si c'est une demi-heure en vélo, si on rentre teaser et tout en vélo la nuit, on va bégayer et on va se faire mal. Hein.
Vous l'aurez compris, bégayer, ça veut dire qu'elles reviendront à vélo en zigzagant. Par chance, elles ont repéré qu'il y avait des pistes cyclables entre la boîte et la maison.
Ève Roger, avec en prime un petit cours de parler ado, ça fait pas de mal.
Merci, c'était
on
le
va
journal
essayer de pas bégayer.
D'Hélène Zélani.
La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Et il est 7h11, Pierre, c'est l'heure de retrouver Martin Fenot quelque part en France.
Bonjour Martin.
Bonjour Pierre.
Vous êtes où ce matin?
Je suis dans le maquis provençal, près du village de la Bastidonne, dans le Vaucluse, une des régions, vous savez, les plus touchées par la canicule ces derniers jours. À quelques kilomètres de là, des vignes ont été brûlées par le soleil ce week-end. Les cultures ont souffert de la chaleur, sauf peut-être dans le champ où je me trouve ce matin. Ici, l'agriculteur Jean-Louis Joseph relance la culture de la pistache en France. Il a planté 600 pistachiers qui ont la particularité de très bien supporter les températures caniculaires.
Voilà, le réchauffement climatique, il est là. Donc nous, les agriculteurs, il faut qu'on s'adapte. Nous, on essaye le pistachier, ça pousse bien. Moi, tous mes plants ont pris, vous pouvez le constater. Là, les pistachiers, ils aiment la chaleur. C'est un plant, justement, qui est très rustique. Il vient des pays tout autour de la Méditerranée, d'Iran, de Syrie, de Tunisie, d'Espagne, d'Italie. Et curieusement, on n'en faisait plus en Provence.
Mais ça veut dire quoi, Martin? D'où viennent les pistaches qu'on mange, du coup, aujourd'hui en France?
Eh bien, surtout des États-Unis, Pierre, mais aussi d'Espagne, d'Iran, ce sont les plus gros producteurs. Pourtant, la pistache a bien été cultivée en France au siècle dernier.
Il y avait des pistaches en Provence à l'époque romaine. Et moi, j'en ai retrouvé dans les archives départementales à Marseille, sur les marchés provençaux, à Lambesque et à Rognes, où on vendait encore de la pistache dans les années 1902-1904. Ensuite, plus rien. Alors maintenant, c'est formidable, tout le monde veut de la pistache à l'apéro, dans les glaces. La France, aujourd'hui, importe 10 000 tonnes de pistache, elle n'en produit pas.
Et dans combien de temps aura lieu la première récolte?
Alors, il va falloir être patient, 5 ans. Ensuite, il devrait récolter 4 tonnes de pistaches par an. Ça intéresse notamment les confiseurs qui veulent fabriquer, par exemple, le nougat avec de la pistache française. Il faut savoir que d'autres agriculteurs relancent des cultures résistantes aux fortes chaleurs, comme la culture de la grenade, de l'amande, de la noix de pécan ou encore du kiwi.
Mais oui, c'est une manière de s'adapter au réchauffement climatique. Merci Martin Fenot.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
À suivre l'édito éco signé Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Pierre.
Ce matin,
la fièvre de l'immobilier, les prix qui grimpent partout et pas seulement dans les grandes villes.
À 7h20, ils sont à nouveau dans la rue, les personnels des maisons de retraite et des services d'aide à domicile. Le problème n'est pas réglé. Une fois plus, ils dénoncent le manque de personnel, des conditions de travail difficiles. Ils réclament la création de 40 000 postes. Dossier complet, c'est à suivre dans Europe 1. Va plus loin, à tout de suite.
Et pour agir à l'actualité, vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1. Il est 7h14. Il est 7h15. Les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Pierre de Villeneuve.
Un contrôle technique plus sévère pour les voitures diesel immatriculées entre 2004 et 2015. Il coûtera environ 3 euros supplémentaires. Et puis l'interdiction de rouler dans Paris à partir d'aujourd'hui pour tous les véhicules avec les vignettes critères 4. Le sommet de Bruxelles s'éternise. Les dirigeants européens ont encore négocié toute une nuit pour tenter de trouver un accord sur les postes clés. Vigilance orange canicule désormais maintenue dans 13 départements du Sud-Est. Le reste de la France commence à respirer. D'ailleurs, aujourd'hui, quelques orages des Pyrénées aux Alpes et des températures encore très élevées dans le sud-est, jusqu'à 35 degrés à Nîmes. En revanche, seulement 17 cet après-midi à Cherbourg.
Météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 7h30. Europe 1. On passe à l'économie maintenant, l'édito éco, Pierre.
Avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Nicolas, les prix de l'immobilier n'en finissent pas de grimper régulièrement. On nous annonce la fin de cette hausse, mais on l'attend toujours.
Eh bien oui, et d'abord pour une raison, c'est que les taux d'intérêt sont très faibles et donc jamais on a emprunté dans de meilleures conditions, donc les Français en profitent. Sur les 6 premiers mois de l'année, les prix ont augmenté de 3% à Paris. On atteint un prix au mètre carré de 9 693 euros en moyenne. Hausse semble à Lille, plus 2,9%, où les prix sont 4 fois plus faibles au mètre carré néanmoins. Hausse semblable encore à Toulouse, plus 2,5%. Mais surtout, le marché est très dynamique dans des villes, par exemple, comme Lyon, plus 6,6% de hausse. Nantes, plus 6,5%. Rennes, plus 5,9%. Tout ça sur 6 mois. Hein. On est donc sur des rythmes bien plus élevés que l'inflation. À Paris, d'ailleurs, sur l'ensemble de l'année, on s'attend à une hausse de 7% avec un prix au mètre carré qui dépasse les 10 000 euros le mètre carré.
Mais au-delà de ces grandes villes. Ce qui est nouveau, c'est que la hausse s'étend partout.
Voilà, c'est ça qui est nouveau. C'est ce que le patron de Century 21, Laurent Vimont, appelle l'effet centrifugeuse. La hausse gagne les périphéries des grandes villes, mais s'étend même au-delà. C'est là qu'on a une vraie rupture. Depuis 10 ans, les prix baissaient dans les campagnes, en moyenne, bien sûr. Hein. Ce semestre, la nouveauté, c'est qu'il progresse. Sur 10 ans, l'indice des prix en zone rurale avait chuté de 3,4%, alors que les prix montaient partout ailleurs. Et bien, sur ce premier semestre, pour la première fois, la hausse des prix en zone rurale augmente de 0,5%. C'est pour la première fois depuis 10 ans, cette évolution divergente entre les villes et les campagnes qui avait creusé l'écart entre les deux France, et bien cette divergence est finie. Et donc, on avait une France où le patrimoine se valorisait, une autre dont le patrimoine baissait. Là, aujourd'hui, le fossé cesse enfin de se creuser.
Bon, Nicolas, je vais vous poser une question, sachant très bien que vous n'êtes pas Madame Irma. Mais est-ce que cette hausse de l'immobilier est durable ?
Alors, il y a deux déterminants pour la hausse. C'est d'abord les taux d'intérêt et le marché de l'emploi. Si ces deux déterminants restent en place, effectivement, la hausse va continuer. Est-ce que c'est souhaitable ? Non, c'est parce que ça pèse sur le pouvoir d'achat. C'est terrible pour les jeunes et puis ça favorise l'étalement du tissu urbain. Il faut savoir que tous les 10 ans, en France, on transforme l'équivalent d'un département de terre agricole ou de forêt en surface urbaine. Mmh. Les périphéries des villes grignotent le paysage. Ça n'est pas durable. Il va falloir construire plus dense, plus en hauteur. Ça permettrait de résoudre une partie des problèmes de coûts de transport et de temps de trajet, mais ça veut dire aussi changer beaucoup d'habitudes du côté des maires, des promoteurs, des particuliers aussi, et c'est pas simple.
Bah, j'espère que Paris ne deviendra pas Hong Kong. Merci Nicolas Barret, édito Écho tous les matins sur Europe 1. Puis justement, tout à l'heure, on reviendra sur une autre problématique qui est afférente à cela, c'est l'encadrement des loyers avec Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. Merci Nicolas.
Europe 1, Pierre de Villeneuve.
Il est 7h19, Europe 1 va plus loin. Enquête ce matin sur la colère des personnels des maisons de retraite et des services d'aide à domicile qui redescendent dans la rue aujourd'hui.
Oui, une fois de plus, ils dénoncent le manque de personnel et des conditions de travail très difficiles. L'intersyndicale exige notamment la création de 40 000 postes. Bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour Pierre.
Le secteur pourtant n'arrive pas à recruter au point que de nombreux salariés sont sans formation.
Oui, il suffit d'aller sur les sites d'emploi pour s'en rendre compte. Partout en France, on cherche des aides-soignantes dans les maisons de retraite ou des personnes pour assurer de l'aide à domicile auprès des plus âgés. Mais voilà, il n'y a pas assez de candidats. Le gros problème, c'est bien sûr le manque d'attractivité de ces métiers, faible rémunération, à peine plus que le SMIC, horaires morcelés, temps partiel subi, rythmes effrénés, turnover très élevé. Il y a aussi un énorme manque de considération.
Ça fait beaucoup, beaucoup de difficultés. Qui sont les candidats ?
Aujourd'hui, seuls des profils qui ont du mal à trouver des emplois se présentent. Un chiffre parle de lui-même. 90% des candidats en Île-de-France sont, selon un des gros acteurs de l'aide à domicile, issus d'une immigration récente. C'est donc bien souvent un travail pris par défaut. Et certains, issus de l'immigration ou pas, n'ont même pas toutes les qualifications. C'est le cas de Gaëlle, elle a 22 ans. Elle travaille dans une maison de retraite près de Lyon comme agent de service, faute d'avoir le diplôme d'aide-soignante.
Dans l'EHPAD où je travaille, on est sur une équipe de 13 personnes. On est 6 à ne pas avoir notre diplôme d'aide-soignante. Je n'ai pas suivi la formation. C'est pour ça en fait que techniquement, je gagne moins qu'elle, même si on fait les mêmes tâches. En fait, ils n'arrivent pas à remplir les classes d'aide-soignante parce que les conditions de travail sont déplorables. Ça manque toujours de personnel. Il n'y a pas assez de remplaçants. Et c'est du travail à la chaîne. On est censé faire de l'humain. On n'a plus le temps. Donc en fait, on n'a même plus le temps de nous discuter avec les personnes âgées. Il y a vraiment des remplaçantes qui viennent pour une journée et qui après en fait ne reviennent plus parce que c'est pas ce pourquoi elles sont venues en fait. Elles sont venues pour être soignantes et pas pour faire du travail à la chienne.
Et ce cas est très loin d'être anecdotique, hein, ce qui fait que parfois, sur le terrain, le service apporté n'est pas à la hauteur, comme nous l'a confié Corinne, qui vit à Tourcoing et qui fait appel à des services d'aide à domicile pour prendre soin de sa maman de 93 ans, très dépendante après un AVC.
Une auxiliaire de vie devait venir le soir pour donner à manger à ma mère et ensuite la mettre au lit parce qu'elle est incapable de se lever et de se déplacer seule. Et en fait, donc ma mère a passé sa nuit dans un fauteuil et c'est l'infirmière qui vient tous les jours pour faire la toilette le matin et donner les médicaments qui s'en est aperçue et qui m'a prévenue, bien sûr. Et ensuite, il y a une ou deux fois où le problème s'est reproduit pour les repas de midi. Donc là, ma mère n'a pas mangé, évidemment, et on s'en est aperçu l'après-midi en passant.
Et pour faire en sorte que ces situations n'arrivent pas, les entreprises d'auxiliaires de vie demandent de plus en plus aux équipes de badger à l'arrivée et au départ du domicile de la personne aidée. Mais elle a des charges de ses personnels. Il manque souvent de temps. Les rendez-vous s'enchaînent. Ce sont parfois des créneaux de seulement 15 minutes.
Bon, voilà pour le constat, Emmanuel. Quelles sont les solutions?
Le nerf de la guerre, ce sont les conditions de travail et surtout le montant de rémunération pour Bertrand Brand de la CFDT Santé Sociaux.
Il faut être vraiment amoureux du métier, pratiquement, pour choisir encore ce métier, parce qu'il est pas très bien payé quand même, hein. On a à peine au départ au-dessus du SMIC et en fin de carrière, on est loin des salaires d'autres métiers à qualification équivalente.
Revaloriser les salaires, c'est ce que fait Pierre-Emmanuel Bergeget. Il a lancé WeHelp, un service d'aide à domicile. Il recrute 35 à 50 auxiliaires de vie par mois. S'il trouvait des candidats, il pourrait encore en recruter le double.
Une grande partie du secteur paie encore ses intervenants au SMIC. Et là, une grande partie du secteur fonctionne encore avec des temps partiels à une vingtaine d'heures par semaine. Donc vous êtes obligé d'augmenter le niveau de recrutement pour être sûr de recruter des gens compétents, de confiance, que vous pourrez envoyer sereinement au domicile de personnes âgées isolées pour bien les prendre en charge.
Et le problème a risque de s'aggraver. On sait que la demande va être exponentielle. La part des personnes âgées de 75 ans ou plus dans la population française devrait passer de 9% en 2015, après de 15% en 2040. Côté gouvernement, on suit de très près cette tension. L'ancienne ministre du Travail, Myriam El Khomri, va bientôt lancer une mission sur les métiers du grand âge. Et un projet de loi est prévu dans les mois à venir. Mais c'est assez certain que ça ne répondra pas à ces demandes extrêmement importantes des personnels.
Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1, dossier signé avec Zoé Paco.
Et pour agir, c'est simple, Twitter hashtag Europe 1, vous pouvez également nous appeler au 3921, c'est 50 centimes la minute.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Quelques réclames et à suivre l'innovation. Oubliez les scies pour tailler du bois. Aujourd'hui, Anissé Mbida vous propose du nouveau dans les matériaux de construction. A tout de suite.
Il est 7h25, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour, l'innovation avec Anissé Mbida, Pierre.
Bonjour Anissé.
Bonjour Pierre.
On connaît les imprimantes 3D, en général elles fabriquent des pièces en plastique, parfois en métal, mais vous avez trouvé un nouveau type d'imprimante capable d'imprimer des pièces en bois.
Oui, et c'est une formidable invention Pierre, parce qu'elle va permettre de remplacer plein d'objets qui aujourd'hui sont fabriqués en plastique par des objets fabriqués en bois. Vous savez, aujourd'hui tout est quasiment en plastique parce que c'est pas cher et parce que c'est facile à mouler dans n'importe quelle forme. Eh bien, avec cette imprimante 3D, on va pouvoir faire la même chose avec du bois, sans scier, raboter ou sculpter. La fabrication en bois va devenir beaucoup moins chère.
Bon, d'accord, mais j'ai du mal à voir comment ça fonctionne.
Eh bien, c'est le principe de l'imprimante 3D, c'est-à-dire positionner des minuscules gouttelettes de matière les unes sur les autres, et en répétant ce processus des milliers, des centaines de fois, eh bien, on arrive à créer un objet qui après se retrouve en volume. Alors pour ça, en général, on utilise des gouttelettes de plastique, hein, comme matière première. Qui
encore durcissent. Le plastique.
Oui, bah oui, souvent, parce que c'est ce qui est le plus facile. Eh bien là, des chercheurs de l'université de technologie de Chalmers en Suède ont réussi à le faire avec de la pulpe de bois qui durcit en séchant, et par-dessus, ils ont développé une nouvelle technique d'impression qui imite tous les détails, toute la structure du bois.
Mais on peut faire n'importe quel objet avec ?
N'importe quoi, hein, des pièces de meubles, des pieds de micro, hein, des coques de téléphone portable. Et l'avantage, bah, c'est que ce sera pas cher, puisque la matière première utilisée, c'est de la sciure, des copeaux, des branchages, bref, que des déchets de bois. Au lieu de les jeter, bah, on va pouvoir les recycler et fabriquer des objets qui, jusqu'ici, on fabriquait en plastique. Encore lui, le vilain plastique.
Le vilain plastique et le gentil Anicet Mbida.
Le gentil bois.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr. Dans un instant, le journal de François Geffrier. Tout de suite, la météo. Laurent Cabrol-Pierre.
Et oui, Laurent.
Et avec les dernières nouvelles en matière de département en alerte orange. Alors, les voici. Il y en a 13 maintenant. L'Ain, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Bouches-du-Rhône, Drôme, Gard, Hérault, Isère, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, Var et Vaucluse. 13 départements, donc ça diminue. Les régions en canicule, la vallée du Rhône, grosso modo, et l'arrière-pays méditerranéen, où il fera aujourd'hui entre 34 et 38. Et puis, il semble que demain, tout le monde sera sorti de cet épisode de alerte orange, en tout cas. Et donc, nous retrouvons des températures qui seront certes estivales, mais pas du tout caniculaires. En ce qui concerne les températures justement du jour, 37 à Lyon, 35 à Grenoble, 33 à Saint-Étienne, 32 à Marseille. Nous aurons 31 à Dijon, 30 à Toulouse, 29 à Nancy, 28 à Tours, 27 à La Rochelle. Pardon de les égrener, mais c'est important. Hein. Ça dépend de votre confort, chers amis. Paris, Bordeaux et Reims, 26. 25 à Nantes, 24 à Lille, 23 à Rennes et Biarritz, 22 à Caen et 18 à Saint-Brieuc. Voilà pour les températures maximales. Hein, alors que ce matin, il fait encore bien chaud dans le midi avec 23 à Lyon, 24 à Marseille et 26 dans le comté niçois. Le ciel, le sud-ouest est couvert, le restera jusqu'à midi 1h. Le littoral de la Manche et Pays de la Loire, la région parisienne, le centre, Champagne-Ardennes et Poitou-Charentes, les nuages vont s'évaporer. Il fera beau cet après-midi où il y aura du soleil. Pas forcément du beau temps maintenant aujourd'hui, le monde en a marre. Des orages surtout en Auvergne, Dijonais, Vosges, Franche-Comté et Alpes. Des orages dans ces régions, il faudra vraiment faire attention, surtout en montagne. Voilà.
Merci Laurent Cabrol.
À suivre Pierre.
Les remous autour de l'évacuation musclée de militants écologistes. Vendredi à Paris, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner demande des explications au préfet. C'est l'édito de Jean-Michel Apathy à 7h40. 7h43, Axel de Tarlet, une étude dévoile que les Français sont très honnêtes. Quand on trouve un portefeuille, on le rapporte et plus il y a de l'argent dedans, et ben plus c'est le cas. Et 7h45, les véhicules critères 4, interdit à compter d'aujourd'hui dans Paris. En banlieue, ce sont les critères 5 qui sont bannis. Le premier adjoint à la maire de Paris, Emmanuel Grégoire, sera mon invité dans un quart d'heure. On parlera aussi de l'encadrement des loyers qui fait son grand retour. Excellent réveil à tous sur Europe 1.
Nous sommes le lundi 1er juillet, les
7h30. 7h, 9h. Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Et à 7h30, le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Vous êtes trop polluant pour cette ville. Passez votre chemin. C'est un peu ça le message adressé aux automobilistes qui roulent avec une belle vignette critère 4 sur le pare-brise et qui sont désormais bannis de Paris. La capitale leur interdit ses rues de 8h à 20h sauf le week-end. Pour les poids lourds, critère 4, c'est toute la semaine. Reportage de Jean-Jacques Héry.
Benjamin a préféré prendre de l'avance, car il le sait, sa Peugeot 307 devra maintenant rester au garage. Depuis ce matin, la petite diesel de 2004, classée critère 4, est trop vieille pour rouler à Paris.
Ça fait à peu près un an qu'on est au courant sur l'interdiction des critères 4, donc j'apprends à me déplacer un petit peu d'une autre manière. Ça faisait déjà un moment que j'utilisais beaucoup moins ma voiture sur Paris, à cause des bouchons notamment. Donc on se déplace un petit peu autrement. Au final, on se rend compte qu'on n'a pas tant que ça besoin d'une voiture quand on est en ville. Après, si je me trompe pas, l'interdiction court jusque 20h le soir, donc je pourrais la sortir le soir en cas de besoin.
L'interdiction est effectivement levée le soir à 20h ainsi que les week-ends, mais la restriction inquiète pourtant certains commerçants. Wally est épicier, il se déplace beaucoup avec son fourgon pour s'approvisionner en région parisienne. Son véhicule est classé critère 3, pour l'instant il n'est pas concerné, mais il a peur de l'être à l'avenir.
Parce que vont enlever le cas, c'est un business, c'est tout quoi, voilà. C'est commercial ça, monsieur, c'est tout.
Et si par exemple on dit un jour les trois sont interdits?
C'est interdit, la loi c'est la loi. Hein.
Donc il faudra changer de voiture.
J'ai pas le choix.
Et de conclure avec un sourire un peu forcé, si ça continue, je vais devoir investir dans une petite charrette.
Jean-Jacques Héry pour Europe 1. À noter que les véhicules critères 5 sont désormais exclus d'un périmètre plus large à partir d'aujourd'hui. Il s'agit de toutes les communes ceinturées par l'autoroute A86. Puisqu'on parle de votre voiture, c'est aujourd'hui que les nouvelles règles du contrôle technique sont appliquées pour les diesels. Un surcoût en moyenne estimé à 2-3 euros. Par ailleurs, les tarifs réglementés du gaz baissent de 6,7% quant aux demandeurs d'emploi. Ils percevront ce mois-ci des allocations en hausse de 0,7%. Autre changement de ce 1er juillet, censé favoriser le pouvoir d'achat, l'encadrement des loyers à Paris, de nouveau en vigueur après une première phase entre 2015 et 2017. Pour tout nouveau bail ou tout renouvellement, il ne faudra pas dépasser une fourchette dépendant du quartier, de la surface et de l'époque de construction du logement. Mais pour les locataires, ce ne sera pas forcément facile de faire respecter la loi, comme a pu le constater Maud Descamps.
Il y a 3 ans, Fabien a signé un bail de location, 754 euros pour un 18 m² dans le 16e arrondissement. À l'époque, l'encadrement des loyers était pratiqué à Paris. Le jeune homme se rend compte que son propriétaire ne respecte pas la loi et le contacte pour contester.
J'avais fait une réclamation au propriétaire pour que ça soit régularisé, mais le propriétaire avait refusé et m'avait presque intimidé en disant que j'avais déjà de la chance d'avoir eu cet appartement-là.
Cet ingénieur de 23 ans renonce à aller plus loin de peur de subir des représailles. S'il existe quelques failles dans le dispositif, pour Serge Bussat du réseau Guy Hoquet, l'encadrement des loyers bénéficiera tout de même en priorité aux locataires de petites surfaces.
Le réel impact qu'on voit, c'est clairement sur les petites surfaces, où il y a eu dans le passé des abus de la part des propriétaires, en particulier dans des périodes de tension comme on peut avoir maintenant avec l'arrivée des étudiants sur Paris, où il y a une pénurie de petits logements.
Selon cet expert, pour les petites surfaces de 10-15 mètres carrés, le loyer pourrait, à partir d'aujourd'hui et dans certains cas, baisser de 100 voire 200 euros.
Maud Descamps pour Europe 1. Ils sont auprès des personnes âgées toute l'année, 24 heures sur 24, les professionnels de l'aide à domicile et les personnels des maisons de retraite se mobilisent ce lundi, journée d'action pour alerter sur leurs conditions de travail, dénoncer le manque de moyens et les salaires trop bas. Dans 1h30, les collégiens de 3e commencent les épreuves du brevet, le premier examen de leur vie. Le français ce matin, les maths cet après-midi, histoire géo et sciences demain. L'examen prévu la semaine dernière avait été décalé en raison des fortes chaleurs.
Vous l'avez eu votre brevet ?
Pas sûr.
Vous n'en souvenez pas ? Les fraudeurs maintenant n'ont qu'à bien se tenir. Les ministères de l'Intérieur et de l'Économie renforcent leur traque.
Ils mettent en place d'une part une nouvelle police fiscale, 250 agents, et d'autre part une sous-direction spécialement dédiée à la criminalité financière, car celle-ci est en pleine explosion. Guillaume Biais.
Corruption, fraude fiscale, blanchiment, il n'y a jamais eu autant d'infractions financières commises en France. Plus 20% depuis 5 ans, plus de 400 000 faits rien que l'an dernier. Alors pour faire face à cette masse considérable de dossiers, pour enquêter plus vite et plus efficacement, la police judiciaire crée une sous-direction de la lutte contre la criminalité financière. Plus de 200 enquêteurs spécialisés, avec à leur tête un homme dont la parole est rare et les dossiers ultra sensibles, Thomas de Ricolfis, jusqu'ici patron de l'Office anticorruption.
C'est une priorité de lutter contre cette forme de criminalité parce que la délinquance financière, vous ne la voyez pas, elle est silencieuse et les préjudices sont très importants. Quand on pense à un chef d'entreprise qui rachète une entreprise en difficulté et qui revend tous ses actifs, ça peut se terminer au final par des gens qui sont au chômage. Donc tout l'enjeu pour un service de police, et d'où la création de cette sous-direction, c'est d'accentuer notre répression, notre action contre cette forme de criminalité.
Agir plus vite, plus fort, devenir la référence dans la lutte contre la criminalité financière, c'est l'ambition de cette nouvelle sous-direction de la PJ, qui va aussi s'appuyer sur des analystes, des experts en informatique et sur la plateforme d'identification des avoirs criminels pour mieux débusquer l'argent caché issu de la fraude ou du blanchiment.
Les informations de Guillaume Biais du service police-justice d'Europe 1. Il faut savoir dans la vie où est sa place, dit Nicolas Sarkozy. Ma place n'est plus dans la vie politique partisane, elle n'est plus là définitivement. L'ancien président était sur France 2 hier soir pour parler de son livre Passion, qui n'est donc pas une façon de refaire surface politiquement. L'information de la nuit en provenance du Japon, où l'on a vu des navires un peu particuliers prendre la mer il y a quelques heures, des baleiniers et leurs harpons, ça faisait 31 ans que ce n'était pas arrivé. Tokyo a décidé de quitter la commission baleinière internationale et donc de reprendre la chasse commerciale. C'est une question culturelle. Pauline Jacquot.
La pêche à la baleine est un emblème national, à en croire les autorités japonaises, une part de l'identité du pays depuis le XIIe siècle. Le Japon brandit donc l'argument culturel tout en affirmant que la plupart de ces cétacés ne sont pas menacés d'extinction. Mais il y a aussi une raison politique. Les principaux ports de pêche sont ancrés dans des fiefs électoraux de plusieurs membres du gouvernement, à l'extrême sud-ouest par exemple, terre du Premier ministre Shinzo Abe. La viande de baleine n'a en fait jamais vraiment quitté les étals des poissonniers, fait, le pays exploite une faille du moratoire de 1986 qui autorise cette chasse à des fins de recherche scientifique. Le Japon chasse la baleine, mais n'en mange quasiment plus, à peine 40 grammes par personne chaque année. Le pays a promis de ne chasser que dans ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive, et non plus, comme il le faisait avant, dans l'océan Austral.
Explication signée Pauline Jacquot pour Europe 1.
Merci, c'était le journal de François Geffrier.
Vos réactions, on continue à les lire sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Et voici le duo Apathy-Tarlet. Messieurs, bonjour.
Bonjour Pierre.
Bonjour Pierre.
D'abord, la politique avec vous Jean-Michel.
Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, se pose la question: est-ce que les dépolitiers ont été trop violents vendredi à Paris en évacuant des militants écologistes? Il se pose la question, Christophe Castaner, et on a la réponse, c'est oui, oui et oui.
Et l'économie, Axel?
Une bonne nouvelle, les Français sont très honnêtes. En France, si vous perdez votre portefeuille, on vous le rapporte. C'est moins le cas ailleurs, c'est moins le cas en Italie ou en Grande-Bretagne.
Apathy-Tarlet, c'est dans un instant sur Europe 1.
Bon réveil à tous, il est 7h37. Il est 7h38, Pierre de Villeneuve, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Jean-Michel, l'évacuation musclée par la police de militants écologistes vendredi après a suscité beaucoup de réactions pendant le week-end. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, demande des explications au préfet de police. S'agit-il d'une polémique artificielle ou d'un vrai problème?
Non, un vrai problème. L'attitude de certains policiers devient, dans la République française, un vrai problème. Vendredi, des militants d'une association qu'on ne connaît pas, née en Grande-Bretagne, qui s'appelle Extinction Rebellion, ils sont 400 à peu près, bloquent un pont de Paris. Ils en bloquent la circulation, l'action est illégale, les policiers interviennent, jusque-là, rien à dire. Un journaliste filme la scène, il s'appelle Cédric Lanneau. Et d'ailleurs, Cédric Lanneau, au passage, raconte que les policiers ont interdit à d'autres journalistes de filmer. Si c'était vrai, ce serait quand même aussi une petite question. Je pense qu'il peut autoriser des policiers, si c'est vrai, à agir comme ça. Bref, Cédric Lanneau met vendredi soir des images qu'il a filmées sur les réseaux sociaux. Et là, tout de suite, c'est le choc. Pourquoi? Parce qu'on voit des policiers, des CRS, tête nue, ils ont enlevé le casque, donc ils ne se sentent pas du tout en danger. Arrosés de gaz lacrymogène avec une petite bombe, mais très près du visage. Des militants écologistes qui sont assis, qui ne sont pas violents, qui sont donc très pacifiques et qui ne méritent pas ce traitement. On voit une femme sur cette vidéo qui dit... Elle reçoit le gaz lacrymogène en pleine figure. Hein. Elle dit « Je suffoque ». Que lui répond le policier qui représente la République française quand même, hein. Il lui répond « Dégage ». Quand même, on se dit « C'est une attitude telle qu'on la voit sur les images, à la fois dangereuse, agressive et évidemment disproportionnée ». Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a attendu 48 heures, hein. Faut quand même le noter, c'est-à-dire dimanche après-midi, pour demander des comptes au préfet de police, c'est bien le moins. Et on espère qu'on aura des comptes rapidement et qu'on aura une explication précise de ce qui s'est passé avec ces policiers, qui a donné l'ordre d'agir comme ça. Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent. Ces images nous ont remis en mémoire ce qui s'est passé lors du mouvement des Gilets jaunes. Est-il normal que 7 mois et demi après les premières manifestations, on n'ait aucune nouvelle des plus de 250 enquêtes déclenchées par l'inspection générale de la police nationale sur les policiers? Évidemment que non, c'est pas normal. Est-il normal qu'aucun policier n'ait été suspendu pendant les différentes actions qu'on a vues dans ce mouvement? Il y a quand même eu des scènes très choquantes. Ce commandant de police à Montpellier qui frappe à point nu un gilet jaune, qu'est-ce qu'il est devenu celui-là? Mais on ne nous dit rien, ça n'est pas normal. Est-ce que tout ceci a créé au sein de la police un sentiment d'impunité chez certains policiers qui du coup, comme vendredi à Paris, prennent une bombe lacrymogène et aspergent à quelques centimètres du visage des manifestants? Est-ce que ce sentiment d'impunité existe ou pas? Tout cela, Christophe Castaner devrait en parler davantage qu'il ne le fait. Maintenir l'ordre dans la République française, qui est une vieille république, qui a une éthique, ça n'est pas faire ce qu'ont fait des policiers vendredi à Paris. Si Christophe Castaner a besoin que le préfet de police le lui dise après avoir vu les images, c'est quand même étonnant.
Merci Jean-Michel Apathy. Axel de Tarlet, si on trouve un portefeuille dans la rue avec de l'argent, on le rapporte. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude de la revue Science qui dévoile que les Français sont très honnêtes.
Voilà, gigantesque étude, assez amusante, hein, une étude qui a duré 3 ans. Donc on a perdu, ceux qui ont fait l'étude ont exprès perdu 17 000 portefeuilles dans 40 pays. Alors dans ces portefeuilles, il y avait une liste de courses, il y avait une clé, il y avait un peu de l'argent, un peu plus de 10 euros. Et il y avait également les coordonnées du propriétaire. Alors, que fait-on quand on tombe sur ce portefeuille? Que faites-vous, hein? Est-ce qu'on contacte le propriétaire? Eh bien, j'ai là, dans l'ordre,
oula,
la liste des pays où l'on contacte le plus le propriétaire pour lui rendre son portefeuille. Alors, le pays qui est numéro 1, c'est la Suisse.
Tu m'étonnes.
Taux de retour, 75%, suivi par...
J'aurais dit plus, moi.
La Norvège.
75,
uniquement. 75, voilà. La Norvège, Pays-Bas, Danemark. Écoutez, la France, Franchement, sur 40, on est bien classé. Ouais. Nous arrivons 10e avec un taux de retour de 55%. Nous sommes juste après l'Allemagne. Alors, en revanche, petite satisfaction. Si on continue, on voit que la Grande-Bretagne est 21e.
L'Italie, c'est l'effet Brexit.
Ça vous plaît, ça.
Voilà, l'Italie, 24e. Et alors, tout en bas du tableau, des pays où il ne faut pas perdre son portefeuille. Les trois qui ferment la marche, alors, je ne connais pas les raisons. Hein. Oui. C'est Pérou, Maroc et le tout dernier, c'est très surprenant, c'est la Chine.
La Chine. Voilà, et on peut rendre le portefeuille sans argent, ça doit être fréquent, ça.
Alors, c'est ça qui est très surprenant dans cette étude, parce que là, c'était bon, c'est amusant.
On prend l'argent, on rend le portefeuille.
Non, il y a un truc qui est très surprenant dans cette étude, c'est qu'on s'aperçoit, et les auteurs de l'étude ont été très surpris par ça, plus il y a d'argent dans le portefeuille, et vous m'entendez, plus on rapporte le portefeuille.
Ah ouais, parce qu'on a peur.
C'est très contre-intuitif, pas du tout, pas du tout. Alors, d'abord les chiffres, un portefeuille sans argent, taux de retour 40%. Un portefeuille avec de l'argent, taux de retour 51%, 11 points de plus. Pourquoi ? Eh bien, la réponse, c'est que personne n'a envie de se dire que qu'il est un voleur. En fait, quand on a cette situation, on est subitement confronté à cette situation qui va vous classer dans une catégorie. Est-ce que vous êtes un citoyen voleur ou est-ce que vous êtes un citoyen honnête ? Eh bien, on s'aperçoit que l'image de soi, l'estime de soi, l'emporte sur l'appât du gain. Les auteurs de l'étude écrivent, vous voyez, quand il y a de l'argent, les gens, soudain, ont l'impression de voler et personne n'a envie de se voir, de se définir comme un voleur. Et donc, c'est très intéressant. Donc, les auteurs, d'ailleurs, de l'étude invitent les pouvoirs publics à lire cette étude parce que, naturellement, les gens ne sont pas voleurs. Or, on s'aperçoit que le fisc a tendance, dès que vous faites une erreur, à vous considérer comme un voleur et à vous sanctionner. C'est pas bien, disent les auteurs de cette étude. Voilà. Donc, étude intéressante, en tous les cas, qui peut donner des idées de vacances. En tous les cas, on sait qu'on peut partir en Suisse et même en France, l'esprit tranquille, en perdant son portefeuille. On le récupérera.
Ouais, merci, Axel. Rendez-moi mon portefeuille.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Les véhicules critères 4 interdits à compter d'aujourd'hui dans Paris. En banlieue, ce sont les critères 5. 800 000 voitures et camionnettes au pied du mur. Quelle réponse du premier adjoint à la maire de Paris, Emmanuel Grégoire. Il est mon invité dans un instant.
45, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Pierre Devineau.
Le début ce matin à 9h des épreuves du brevet des collèges pour les 3e. L'examen a été reporté en raison de la canicule. Les élèves qui avaient prévu de partir en vacances pourront le passer en septembre. Les employés du service à la personne et des maisons de retraite se mobilisent aujourd'hui pour obtenir plus de moyens. Tous les syndicats appellent à une journée d'action. Ils dénoncent les manques d'effectifs pour le soin des personnes âgées. Le préfet de police de Paris devra rendre des comptes sur une évacuation musclée de manifestants écologistes vendredi, alors qu'ils étaient assis sur la route, des policiers les ont aspergés de gaz lacrymogène. Le ministre Christophe Castaner demande un rapport.
Europe 1.
L'encadrement des loyers fait son grand retour à Paris. On parle aussi ce matin des voitures. Les véhicules critères 4 sont interdits à compter d'aujourd'hui dans la capitale. Pierre, vous recevez ce matin Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris.
Bonjour Emmanuel Grégoire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Depuis 2 ans, depuis juillet 2017, la circulation est restreinte à Paris pour les véhicules de critères 5. À compter d'aujourd'hui, ce sont les vignettes critères 4. Concrètement, qu'est-ce qui est interdit ?
Concrètement, c'est de rouler dans la journée de 8h à 20h quand on a une critère 4 ou une critère 5 pour Paris intramuros. Et désormais, et c'est la grande innovation de cette année, à l'échelle de la métropole du Grand Paris, à l'intérieur de la 86, c'est interdit pour les critères 5. Alors c'est un peu compliqué pour comprendre ces mécanismes. Il faut très simplement aller sur le site internet, demander sa vignette critère parce que c'est en fonction des types de véhicules et de leur motorisation. L'idée, simplement, en fonction de l'âge des voitures, c'est progressivement d'essayer de limiter les véhicules les plus polluants.
Vous parlez d'innovation. En matière de contravention, c'est combien ?
Alors, c'est 68 euros pour un véhicule, 135 euros pour un poids lourd, avec deux cas que je différencie. À Paris, comme on a plus de recul, on essaie de verbaliser, mais vous le savez, à l'échelle de la métropole, on a plutôt choisi d'avoir de la bienveillance, de la pédagogie et de l'accompagnement. Le président Patrick Ollier et la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont dit qu'on ne mettrait pas en place de verbalisation avant 2021.
Donc pour l'instant, c'est de la prévention, c'est attention, vous n'avez pas la bonne vignette.
Absolument.
Et ça concerne 5 millions d'habitants, 800 000 véhicules. En banlieue, beaucoup ont besoin d'une voiture. Tous n'ont pas les moyens d'en changer. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là ?
Alors d'abord, ce n'est pas du tout autant de véhicules à l'échelle de la métropole. À l'échelle de la métropole, on parle critère 5, seulement 30 000 véhicules.
Oui, mais là, c'est 4 et 5.
Oui, mais c'est sur Paris intramuros.
Non, mais je sais bien, mais vous savez bien que celui qui a une vignette 4 et qui habite en grande banlieue et qui a besoin de venir avec sa voiture, et notamment les artisans avec une vignette 4, bah, on compte évidemment
ces voitures-là.
Absolument, mais c'est quand même beaucoup moins de véhicules que les chiffres que vous évoquez. L'idée, c'est quand même de remettre les priorités. La priorité, c'est de lutter contre la pollution. Elle frappe d'abord le cœur d'agglomération, hein, c'est le cœur de Paris, c'est la Défense et c'est la proximité avec les grandes pénétrantes. Il faut savoir que pour accompagner ces transitions qui sont toujours difficiles, de nombreuses aides sont mises en place. Quand on cumule toutes les aides, on a jusqu'à 10 000 euros d'aide pour changer son véhicule pour une occasion, jusqu'à 17 000 euros.
Mais c'est toujours
pour changer
son véhicule. C'est à partir de. Jusqu'à,
mais c'est en fonction
donc
des revenus, mais c'est normal. C'est normal.
Vous comprenez.
On indexe. Je comprends, mais enfin, c'est normal que nous aidions d'abord ceux qui en ont besoin. Donc c'est en fonction des revenus, est-ce qu'on est imposable, pas imposable, etc. Il y a des très nombreuses aides qui sont mises en place pour les professionnels, pour les particuliers. Ça permet d'accompagner ces mesures qui sont progressive avec de la bienveillance concernant la verbalisation. C'est simplement une exigence que nous devons nous fixer collectivement. La lutte contre la pollution doit venir en haut de la pile des priorités.
Qu'est-ce que vous dites aux artisans, notamment qui ont des fourgonnettes qui ne sont pas forcément de très très récentes?
Eh bien, qui changent
Attendez, j'ai pas fini ma question. Et qui disent, on n'a pour l'instant pas les moyens de changer de voiture, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans Paris et je vais payer les amendes.
Eh bien, ils ont tort pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a aussi des artisans dans Paris et il y a de l'activité de proximité et c'est pas l'objectif de faire venir des artisans de super loin de l'agglomération pour venir y travailler. Ça évite des déplacements inutiles et donc on veut aussi.
Là, vous parlez d'emploi. Ce sont des gens qui
ont des. Localisable. C'est de l'emploi localisable.
Vous n'allez pas dire à un artisan d'Argenteuil ou de la grande banlieue parisienne de ne pas venir à Paris.
Non, je lui dis pas ça. On le dit pas ça. On dit qu'on veut favoriser l'artisanat local et favoriser les activités locales. C'est une priorité. Et deuxièmement, quand il y a des mesures de restriction et elles sont modestes, hein, il faut savoir que les véhicules dont on parle, c'est des véhicules qui ont pour certains 15-20 ans pour les critères 5 pour les critères 4.
Vous n'allez pas demander,
donc c'est normal.
Vous n'allez pas faire des artisanats de menuiserie, de plomberie au cœur de Paris, alors que vous savez très bien, et on va parler de l'encadrement des loyers dans un instant, que c'est impossible aujourd'hui
alors,
pour quelqu'un.
D'abord,
qui...
non, ce n'est pas impossible. La réalité de l'activité économique à Paris, c'est qu'il y a aussi des artisans, et d'ailleurs, nous faisons beaucoup pour que ce soit le cas. Et encore
c'est
une fois,
niche.
Nous n'interdisons. Non, ce n'est pas une niche, c'est une activité très importante.
Vous connaissez
preuve,
Paris mieux que
y a,
moi.
Il y a énormément d'artisans qui sont installés à Paris et en petite couronne, d'accord. Ensuite,
on
doit
de la
se fixer.
Petite couronne justement avec les vignettes.
Oui. Et donc, ils ont des véhicules professionnels quand ils sont trop anciens pour rouler. Et on a annoncé ça depuis longtemps. Nous avons préparé ça depuis longtemps. Nous avons mis des aides importantes depuis longtemps. Ils doivent changer de véhicule. Ça fait partie aussi de la responsabilité collective qu'on se fixe. Parce que sinon, il y a toujours des bonnes raisons de s'empêcher d'avancer en matière de lutte contre la pollution. Toujours des bonnes raisons.
Je sais que vous voulez avancer, et avec la mairie de Paris, vous voulez avancer pour interdire le diesel en 2024, tous les moteurs thermiques en 2030. Est-ce que franchement, c'est réaliste ?
Il faudrait que ce soit réaliste, parce que ça tue la pollution à l'échelle de la métropole, dont nous parlions à l'instant, plus de 6600 personnes. Si ça, ce n'est pas la priorité que nous devons nous fixer collectivement, c'est vraiment une question culturelle. C'est quoi la priorité que nous voulons nous fixer ? La priorité que nous nous sommes fixés à Paris,
c'est la santé des Parisiens.
C'est la santé des Parisiens et aussi des Franciliens, parce qu'il y a aussi ceux qui habitent près des autoroutes, etc., qui en souffrent.
Autre sujet, bien sûr, c'est l'encadrement des loyers. Le dispositif avait été déjà appliqué entre 2015 et 2017 avant d'être invalidé par le tribunal administratif. Depuis, la loi a changé, ce qui vous permet de retester ce dispositif pendant 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? La première expérience avait vraiment été concluante ?
Oui, elle avait été concluante. D'ailleurs, c'est dommage qu'on ait perdu du temps, puisque après avoir été cassée par le tribunal administratif, elle avait finalement été confirmée par la cour d'appel. Mais enfin, disons que c'était un raté et que là, ça va aller mieux. Grâce à la loi Elan, on peut le rétablir. Et en fait, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de créer un encadrement, comme le nom l'indique, qui permet de limiter la hausse des loyers au moment où il y a des gros bonds, c'est-à-dire au moment du renouvellement de bail ou au moment du changement de locataire. Mmh. Et donc, ça crée un espèce de fait plafond dont a posteriori, l'effet est assez positif, puisqu'on a estimé que dans la période où ça a été appliqué, c'est-à-dire entre 2015 et 2017, l'augmentation des loyers n'a été à peu près que de 1% en moyenne par an à Paris, ce qui a un stock à peu près de 20% du parc qui change tous les ans. Et donc, les résultats sont plutôt bénéfiques. Donc, mais ce n'est pas une solution miracle, ça ne fait pas baisser les prix. Évidemment, mais ça limite l'augmentation.
Qu'est-ce que vous dites aux propriétaires ? On vient de voir justement avec Nicolas Barret que la hausse de l'immobilier est telle. Je veux dire, on investit dans un bien. Et on parle souvent de Berlin, mais à Berlin, ce sont des fonds de pension, des fonds d'investissement qui sont propriétaires. À Paris, ce sont principalement des personnes.
Oui, à Paris, il y a aussi des fonds de pension. Et donc, c'est l'un des problèmes, c'est que les revenus locatifs sont tellement, les rendements locatifs sont tellement élevés que
ça
fait venir des gens. Donc, et ça, c'est l'un des autres effets bénéfiques qu'on
aura
probablement.
Donc, vous faites une justice pour les locataires, mais pas pour les propriétaires.
Si, mais c'est ce que j'allais dire, si vous écoutiez. L'encadrement des loyers, il permettra probablement, en baissant ou en limitant la croissance des rendements locatifs, de faire baisser ou en tout cas de ralentir l'augmentation des prix au mètre carré à la vente. Pourquoi ? Parce que les propriétaires, ils achètent leurs biens soit pour y habiter, et c'est tout à fait normal, soit pour le louer.
Oui.
Et donc plus le
investissement locatif.
Exactement.
Mais
et plus le rendement est élevé, donc plus les loyers sont élevés, plus on consent à acheter cher. Et donc dans l'encadrement des loyers, le bénéfice aussi sera probablement un ralentissement de l'augmentation des prix à Paris. Ce n'est pas une solution miracle, mais je vous assure que quand vous êtes locataire et que vous vous retrouvez face à la menace du renouvellement de bail, à la menace de l'énorme bon, ce sera une mesure de protection des locataires à laquelle nous sommes très attachés.
Merci beaucoup Emmanuel Grégoire d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Merci à vous.
Vous êtes concerné par l'un de ces sujets, vous pouvez réagir en nous appelant au 3921. Écrivez-nous également sur Twitter, hashtag Europe 1.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
À suivre, le brevet des collèges, c'est aujourd'hui. L'épreuve avait été reportée à cause de la canicule. Pourtant, pas sûr que les candidats aient beaucoup moins chaud. Nous irons dans le Gard, dans le journal de 8h. Et puis dans une minute, une gay pride géante hier à New York, 50 ans après les émeutes de Stonewall, qui ont été l'événement fondateur du mouvement pour les droits des homosexuels. C'est la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. À tout de suite.
Très belle matinée avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Il est 7h55. Il est 7h56, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Pierre.
Avec Jean-Philippe Ballas, vous savez quoi, ce matin, hier à New York, une gay pride géante a marqué les 50 ans des émeutes de Stonewall.
Ouais, et ça se comptait en millions de personnes, alors on va se frayer un passage dans la foule, hein, parce que d'abord, faut que je vous emmène devant ce lieu de pèlerinage, cette façade devenue monument national, où comme vous pouvez le constater, on fait des selfies à tire-larigot. Parce que tout est parti de là, Stonewall, du nom de ce bar de Greenwich Village, qui à la fin des années 60 a accueille clandestinement la communauté homosexuelle. Je vous parle d'un temps où être gay est considéré comme une maladie, où l'on s'expose à d'incessantes descentes de police. Mais ça c'était avant cette soirée du 28 juin 69 donc, où la communauté décide que trop c'est trop. Elle se rebelle contre les forces de l'ordre, 6 jours d'émeute, et l'envie de marquer le coup chaque année avec cette gay pride, cette marche des fiertés. Ben écoutez ce qui s'est passé il y a quelques heures. Vous entendez des sirènes ? Oui, les motards de la police new-yorkaise, mais pas du tout en mode répression, non, c'est tout le contraire. Ce sont eux qui ont ouvert le cortège, les motards, oui, les grosses Harley blanches et bleues des NYPD, avec de petits drapeaux arc-en-ciel à l'arrière. Des arc-en-ciel partout d'ailleurs, des ballons baudruche pour ceux qui se sont battus il y a 50 ans, et ceux qui souffrent encore aujourd'hui, et pour tout le monde, la Madonna, qui a donné un concert géant cette nuit à New York. C'est ce qu'on appelle le sens de la fête. Je retiens d'ailleurs cette phrase de deux spectateurs. Vous savez quoi ? Nous les gays, nous ne sommes pas différents des autres. Nous sommes juste un peu plus drôles.
Et je retiens que ces deux spectateurs disent « vous savez quoi ?» C'est-à-dire que votre chronique,
comme
elle,
par hasard,
elle est worldwide. Jean-Philippe Ballas, merci beaucoup.
À suivre le journal de David Doucan, tout de suite la météo avec Laurent Cabrol.
Alors, la chaleur.
Ça bouge. Au point de vue chaleur, oui aussi. Je parlais des orages, mais ça bouge au point de vue chaleur.
Commencez par où vous voulez, Laurent. Bah, c'est pas moi qui vais interférer dans votre météo.
Je vais commencer par des températures un peu plus fraîches que ces jours derniers, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque aujourd'hui, seules des régions comme ou des villes comme Grenoble, Lyon, Saint-Etienne, Marseille et Dijon se situeront entre 31 et 37 degrés, 37 pour Lyon, et donc ailleurs ce sera beaucoup plus respirable, à Nancy, Bourges, Tours, Épinal, autour de 27-28, Paris, Bordeaux, Reims, Nantes, Lille, entre 24-26, et puis 18 à Saint-Brieuc, du 22 à Caen, là on est habitué, parce que ça n'a pas beaucoup monté pendant la canicule. En ce qui concerne les orages, ils commencent, ça commence à bouger dans la Sarthe, dans l'Orne, en Vendée, et du côté de Saint-Dizier, nous avons des averses orageuses et même des orages qui éclatent. Et on voit autour de Paris un temps assez lourd et je vois du cumulonimbus sur les cartes. Ça veut dire que ce sont des nuages d'orage qui n'éclatent pas encore, mais enfin, ils auront probablement une ou deux averses orageuses sur la capitale ou en tout cas sur l'Île-de-France. En ce qui concerne maintenant le sud-ouest, le ciel restera couvert. Et puis pour ceux d'entre vous qui habitent le littoral de la Manche, le centre, la Champagne-Ardenne et le Poitou-Charentes, les nuages vont s'évaporer pour laisser place au soleil dans l'après-midi. Bref, c'est une journée estivale sans plus.
Merci Laurent Cabrol.
Et merci à vous d'avoir choisi Europe 1 ce lundi 1er juillet. Bon réveil, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve.
Et à 8h, le journal David Doucan, bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Toute l'actualité du jour.
Ils ont dû retarder la fête de quelques jours et les vacances. Mais cette fois, ça y est, les élèves de 3e passent le brevet. Aujourd'hui et demain, les épreuves avaient été reportées à cause de la canicule. Les choses se compliquent pour les automobilistes en Île-de-France. À partir d'aujourd'hui, les véhicules avec vignette 4 ou plus n'ont plus le droit de circuler dans Paris intramuros en journée et en semaine. Interdiction aussi pour les vignettes 5 dans plus de la moitié des communes de la métropole parisienne. Et puis l'impasse bruxelloise, c'est une nuit blanche qui prend fin pour les dirigeants européens, incapables de se mettre d'accord pour désigner le président de la Commission, du Conseil et les autres postes à haute responsabilité.
À 8h12, Donald Trump a fait quelques pas en Corée du Nord, l'analyse de Vincent Hervouette. Et à 8h15, David, vous recevez Benjamin Griveaux, candidat à l'investiture La République En Marche pour la mairie de Paris.
Europe 1.
Et nous souhaitons bon courage aux enfants et aux parents. C'est le brevet des collèges aujourd'hui et demain. Les épreuves avaient été reportées la semaine dernière en raison de la canicule. Il fait désormais plus frais sur la majorité du territoire. Météo France ne laisse plus que 13 départements. Vigilance orange canicule dans le sud-est. Et c'est le cas du Gard où vous vous trouvez, Romain Oquet, et où c'est un peu la double peine pour les élèves. Ils ont eu le report et ils auront tout de même la chaleur.
Oui, alors pour l'instant, mon thermomètre n'affiche que 25 degrés, mais il suffit de quelques minutes vraiment pour avoir la peau moite, le front humide. Et dans une heure, quand les élèves commenceront l'épreuve de français, il fera déjà 30 degrés. Alors même si les températures ont baissé par rapport à jeudi dernier, la date initiale pour le brevet, on est loin de conditions optimales. Khadija a dû décaler ses vacances et elle était exaspérée par ce report, finalement inutile pour la collégienne.
Je pense qu'ils n'auraient pas dû le décaler. Après bon, il y a des endroits où peut-être oui, ça a servi. Mais comme ici, nous, Vauvert, Nîmes, Montpellier, je pense que ça ne servait à rien. Ça ne change pas grand-chose, quoi. Parce que du coup, ils ont des ventilateurs, c'est frais un peu. C'est pas comme dehors. Une bouteille d'eau et un ventilateur, ça peut y aller.
Alors justement, dans le collège où je me trouve, des ventilateurs supplémentaires sont justement en train d'être installés. Les fenêtres ont été ouvertes tôt ce matin pour aérer, car l'établissement est resté fermé tout le week-end. Et avec ces grandes baies vitrées, on imagine les tubes. Mais le plus dur est à venir, 35 degrés cet après-midi pour l'épreuve de mathématiques.
Romain Oquet, l'envoyé spécial dans le Gard d'Europe 1. Merci à vous, Romain.
On vient de le voir avec Emmanuel Grégoire, il ne fait pas bon être automobiliste en ce moment en région parisienne.
Oui, à partir d'aujourd'hui, les véhicules avec vignette 4 ou plus n'ont plus le droit de circuler à Paris intramuros entre 8h et 20h du lundi au vendredi. 49 autres communes sur 79 dans la métropole parisienne interdisent les véhicules avec vignette 5 ou les véhicules non classés. L'objectif est bien sûr de réduire la pollution. Nous rejoignons Claudia Bertram. Vous êtes au cœur de Paris dans le 4e arrondissement. Et la police contrôle les automobilistes. Il y a des amendes, Claudia, c'est du sérieux.
Oui, le contrôle de police vient tout juste de se mettre en place et le premier automobiliste avec une vignette critère 4 n'y échappa. Amende de 68 euros, c'est 135 pour les poids lourds et les autocars. Alors le contrôle vient à peine de démarrer et déjà de nombreuses voitures sont sommées de s'arrêter par les policiers. Toutes celles qui ont cette vignette critère 4, c'est celle de couleur marron. Elle concerne les voitures diesel d'avant 2006 ou 2009 pour les poids lourds et les voitures essence de plus de 22 ans. Ce dispositif appelé ZFE, zone à faible émission, interdit donc désormais ces véhicules dans Paris de 8h à 20h du lundi au vendredi. Cette ZFE est mise en place à partir d'aujourd'hui dans plusieurs villes de la métropole également. Et en dehors de la capitale, cette interdiction devrait être accompagnée par une période de pédagogie. La verbalisation ne devrait pas intervenir avant 2021 dans le Grand Paris.
Merci à vous Claudia Bertram, vous étiez en direct du 4e arrondissement de Paris.
Et du 4e arrondissement de Paris à Bruxelles, il n'y a qu'un pas que vous franchissez, David.
Oui, parce que pour l'instant, c'est l'impasse. Les dirigeants européens ont négocié toute la nuit. Ils sont incapables de se mettre d'accord sur la répartition des postes à pourvoir au sommet de l'Union européenne. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour David.
Vous non plus, vous n'avez pas dormi, vous en avez l'habitude, Isabelle. Où en sommes-nous ?
Eh bien, nous attendons le petit déjeuner, David. C'est très sérieux. Nous attendons tous ici que les dirigeants qui ont discuté séparément toute la nuit se retrouvent enfin à 28 autour de la table. Ils viennent d'entrer dans la salle avec une heure de retard. Non. Alors, vous allez me dire que l'Europe, c'est toujours long et compliqué. Certes, mais cette fois, il y a quand même deux éléments nouveaux. En fait, on commence à mesurer les conséquences des élections européennes. Avant, la gauche et la droite se partageaient les postes. Eh bien, désormais, il faut aussi compter sur le centre et les verts. L'équation est plus politique et encore plus complexe qu'avant. Et puis, le deuxième fait marquant, c'est l'affaiblissement d'Angela Merkel. La droite, sa propre famille politique, s'est rebellée contre elle hier. C'est pour ça que ça coince depuis des heures. La chancelière n'est plus la dame de fer. Alors, comment tout cela va-t-il finir ? Mystère, côté français. En tout cas, on se dit prêt à négocier toute la journée, s'il le faut.
Complexité, la complexité des institutions européennes. Mais complexité ne veut pas dire immobilisme. Ils vont tout de même réussir à trouver à un moment donné un accord, Isabelle, j'imagine.
Ah bah écoutez, on l'espère tous en tout cas.
Isabelle Horry, la correspondante d'Europe 1 Bruxelles, merci à vous.
Europe 1.
À suivre dans votre journal, David, le secteur de la dépendance est en crise. Manifestation des personnels de maisons de retraite aujourd'hui devant le ministère de la Santé. C'est dans un instant.
Il est 8h07, votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
La suite du journal avec David Doucan, le secteur de la dépendance est en crise.
Oui, parce que les moyens manquent, parce que les conditions de travail sont pénibles, parce que leur métier ne crée plus de vocation, il est pourtant indispensable. Je vous parle des personnels des maisons de retraite et de l'aide à domicile. Ils vont manifester aujourd'hui devant le ministère de la Santé parce qu'il y a urgence. Écoutez le témoignage de Corinne à Tourcoing qui a besoin de ses aidants pour s'occuper de sa mère de 93 ans.
Une auxiliaire de vie devait venir le soir pour donner à manger à ma mère et ensuite la mettre au lit parce qu'elle est incapable de se lever, de se déplacer seule. Et en fait, donc ma mère a passé sa nuit dans un fauteuil et c'est l'infirmière qui vient tous les jours pour faire la toilette le matin et donner les médicaments qui s'en est aperçue et qui m'a prévenue, bien sûr. Et ensuite, il y a une ou deux fois où le problème s'est reproduit pour les repas le midi. Donc là, ma mère n'a pas mangé, évidemment, et on s'en est aperçu l'après-midi en passant. Il y a aussi de très jeunes filles dans les intervenantes. Il y en a qui ont, je pense, 18-19 ans, qui, à mon avis, manquent parfois un peu de formation. Et j'ai constaté aussi que beaucoup avaient des contrats courts, ou des CDD. Des jeunes filles qui font ça quelques mois et puis qui ensuite ont un contrat qui se termine parce qu'elles vont faire autre chose.
Témoignage recueilli par Emmanuel Duteil pour Europe 1.
Partons maintenant en Tunisie, David.
Oui, le pays a été une nouvelle fois meurtri par le terrorisme. Double attentat jeudi dernier alors que la saison touristique commence. C'est d'ailleurs l'une des priorités des autorités, la sécurité des visiteurs. Et ils sont là, les vacanciers, même à Sousse, dans l'hôtel de bord de mer attaqué il y a 4 ans, quasiment jour pour jour, où s'est rendu notre envoyé spécial, Jean-Sébastien Soldaini.
Tout au long de la mer au-dessus des transats, des hommes postés sur des miradors scrutent l'horizon pour éviter une nouvelle attaque venue du large. Curieuse ambiance pour passer ses vacances, mais cela ne semble pas déranger Patricia.
Sur la plage, il y a des patrouilles de police qui passent régulièrement, à pied et en 4x4. Il y a une sécurité des sacs à main à l'entrée et on passe dans un scanner donc comme à l'aéroport. Donc ça, je pense que c'est dissuasif.
L'hôtel est plein depuis avril, en surbooking même, selon l'un des responsables qui l'admet. Tout a été fait pour gommer ce mauvais souvenir. Piscine modifiée, établissement rebaptisé. Seule une discrète stèle placée près des tables de ping-pong rappelle à Manu ce qu'il s'est passé ici.
Je savais que ça s'était passé sur cette plage, mais je ne savais pas que c'était dans cet hôtel même. Je ne veux pas dire qu'on n'y pense pas. Si, on y pense à ce qui s'est passé, on se dit quand même. On n'est pas à l'abri qu'un bateau fou arrive et... Ces pays sont instables, on sait très bien que de toute manière, la moindre petite étincelle peut faire basculer d'un côté ou de l'autre.
Il garde ça dans un coin de sa tête, mais pour l'instant, sa priorité, c'est de gagner sa partie de pétanque. Sous Jean-Sébastien Soldaï.
On passe au sport, David. Je sais que vous aimez ça. La Coupe du Monde féminine de football, les demi-finales, c'est demain et après-demain.
Oui, Angleterre, États-Unis demain 21h, Pays-Bas, Suède, mercredi, même horaire, et surtout même stade, celui de Lyon. Parce que c'est la capitale du football féminin, avec l'OL et tous ses bons résultats. Les fans s'y sont installés en masse et la fête a déjà commencé. Simon Rubin.
Il faut attendre le début de soirée, moment où les températures fléchissent un peu pour se rendre compte que le Mondial se tient à Lyon. Sur les coups de 20h, des milliers de supporters quittent les hôtels climatisés pour envahir bars et restaurants. Et les plus nombreux ici, ce sont les Américains. Ils ont acheté au moins le tiers des billets pour la demi-finale demain. Alana vient de New York, elle a suivi tous les matchs de son équipe et elle l'annonce cette semaine, Lyon devient une ville américaine.
Il y a vraiment une bonne présence américaine. C'est marrant, si vous essayez d'avoir une chambre d'hôtel maintenant, c'est quasiment impossible, tout est pris. On a plein d'amis qui viennent des États-Unis pour assister au match, c'est chouette.
Un peu plus loin, terrasse orange. Et pour cause, les supporters néerlandais sont venus en masse également. Sarah est une fan de sa sélection et elle reconnaît avoir été soufflée par l'ambiance dans les stades.
Je ne suis jamais allée dans des stades avec autant d'ambiance, je l'oublierai jamais. On ressent à quel point c'est énorme. C'est très très cool et c'est un souvenir que je rapporterai chez moi.
Et d'ores et déjà, toutes les places ont été vendues pour les deux demi-finales et la finale cette semaine. Lyon est bien la capitale mondiale du football. Lyon, Simon Rubin, Europe 1.
Et la finale, cher Pierre, ce sera à Lyon, là encore. Tout se passe à Lyon à partir de maintenant, le 7 juillet prochain.
C'est bien noté, mon cher David. Merci, vous revenez dans un petit instant.
Oui.
La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Et il est 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale, Pierre, avec Vincent Hervouette.
Bonjour Vincent.
Bonjour Pierre, bonjour Céline, bonjour à tous.
La rencontre surprise de Donald Trump et Kim Jong-un, le président américain, est allé sur la ligne de démarcation rencontrer le leader nord-coréen. Ils ont fait quelques pas ensemble en Corée du Nord. Est-ce que c'est un grand pas vers la paix ou juste une mise en scène?
Mais quand ma grand-mère s'intéressait aux amours de vacances et demandait si c'était du sérieux, on lui répondait « c'est un peu tôt pour annoncer le mariage réservé de traiteur ». Alors pour l'instant, Donald Trump se contente de draguer le Nord-Coréen, rien n'a été consommé. Il lui a déjà fait la cour il y a pile un an, à Singapour. Ensuite, il y a eu l'échec d'un tête-à-tête au Vietnam, les fiançailles ont été rompues. Ça rend prudent. Mais s'il obtient finalement la dénucléarisation de la péninsule, eh bien la paix signée, alors la journée d'hier restera comme une date historique. Donald Trump a bluffé le monde entier. D'abord, il s'est invité par tweet en proposant à Kim Jong-un de venir lui serrer la main dans la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées. Et on pourrait juger désinvolte cette façon improvisée, directe, publique de s'adresser aux tyrans. Se dire aussi que la simplicité a payé puisque l'autre a accepté, c'est incroyable. Eh bien, on a raison de pas y croire. En fait, la rencontre était préparée de longue date. Donald Trump a eu le même culot, le génie publicitaire, alors qu'il se tenait sur la ligne de démarcation, de demander à son interlocuteur s'il pouvait franchir ce Rubicon symbolique. Et l'autre a accepté la mise en scène. 20 pas dans un sens, le grand roulant les épaules, le petit marchant en canard, demi-tour, 21 pas pour revenir au point de départ. Le tyran semblait plus détendu en ramenant l'Américain en terrain neutre. Tout ça a pris une minute, mais après tout, Armstrong n'a pas fait des kilomètres sur la Lune. Alors avant, les présidents américains regardaient les martiens de la Corée du Nord à la jumelle. À voir la fébrilité hier des services de sécurité, ils devaient redouter qu'il arrive malheur au président. Et aux États-Unis, certains devaient l'espérer, car le président Trump vient de réussir un bon coup pour Donald, le candidat en campagne.
C'est de la bonne télévision. Est-ce que c'est de la bonne diplomatie?
Ça dépend de ce qu'ils se sont dit pendant la petite heure qu'ils ont passé ensuite à discuter. Personne n'imagine que Kim démonte son mécano nucléaire illico ou que Donald Trump lève tout de suite les sanctions. Il parle avec emphase, mais sa politique est implacable. Les négociations, en tout cas, sont relancées. Tout reste à faire. L'espoir, c'est un accord d'État. Par exemple, la suspension temporaire des sanctions en échange du démantèlement total du principal centre d'essai, celui de Yongbyon. Alors, il y aura une nouvelle rencontre Kim-Donald-Trump et on saura si cette minute de promenade, c'était un grand pas vers la paix ou alors juste une parade pour la galerie.
Merci l'édito international de Vincent Hervouette.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Vous voilà de retour, David Doucan, pour l'interview politique. Votre invité ce matin,
Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement, mais aujourd'hui candidat à la candidature pour la mairie de Paris. Beaucoup de sujets parisiens dans l'actualité. C'est dur pour les automobilistes. On verra ce qu'en pense Benjamin Griveaux.
A tout de suite.
Excellente matinée sur Europe 1, il est 8h15. Il est 8h17, Pierre de Villeneuve.
Benjamin Griveaux, candidat à la candidature LREM à la mairie de Paris, et votre invité David Doucan.
Bonjour Benjamin Griveaux.
Bonjour David Doucan.
La situation se durcit encore plus pour les automobilistes. À partir d'aujourd'hui, si vous disposez d'une voiture avec une vignette critère 4 ou plus, vous ne pouvez plus circuler dans Paris entre 8h et 20h en semaine, du lundi au vendredi. Il y a aussi des interdictions en petite couronne dans l'agglomération parisienne. Il y a un problème là quand même. Il y a un problème, c'est qu'on a le sentiment que les contraintes liées à la transition écologique, c'est pour les pauvres. Les plus fortunés de nos concitoyens qui ont des belles voitures modernes, ils peuvent rouler autant qu'ils veulent.
J'étais il y a 2 mois au service de pneumologie infantile de l'hôpital Trousseau avec le professeur Jocelyne Jus, qui a signé une tribune la semaine dernière dans Le Monde avec une centaine de médecins. Nos villes fabriquent des handicapés respiratoires à vie. On ne peut pas continuer comme ça. Et en même temps, la transition écologique, elle coûte cher. Et l'année qui vient de s'écouler en a été la démonstration. Donc il faut pouvoir accompagner.
Elle coûte cher aux plus pauvres.
Accompagner.
Elle coûte cher aux plus pauvres.
Avec les primes à la conversion qu'a mis en place le gouvernement. Ça, c'est pour les particuliers. Accompagner aussi les professionnels.
Mmh. Oui, puisque ces limitations vont impacter les artisans.
J'entendais à votre antenne Emmanuel Grévoire, premier adjoint de Madame Hidalgo à la ville de Paris. Si on n'accompagne pas les artisans et les commerçants avec une prime à la conversion pour les professionnels, et on peut y travailler, moi j'en ai fait cette proposition, on peut y travailler pour leur permettre de continuer à venir dans Paris. Parce que penser qu'à Paris, on va pouvoir acheter des locaux, louer des locaux commerciaux pour y mettre de la plomberie, des couvreurs, des plaquistes, des carreleurs, des cuisinistes, franchement, il ne faut pas bien connaître la ville de Paris et les prix qui y sont pratiqués. Mmh. Moi, je ne veux pas que Paris se referme sur elle-même. Je veux qu'on puisse continuer à y venir et à y travailler. Et j'ai formulé une autre proposition très concrète, l'interdiction à horizon 3 ans, en discutant, en dialoguant, en travaillant avec les autocaristes, des autocars de touristes à diesel. Ils sont 1500 à 2000 par jour dans les rues de Paris. Ils provoquent des embouteillages, de la pollution sonore, de la pollution visuelle. Eh bien voilà un élément très concret qui permettra de garder des touristes. Rome a réussi à le faire. Je suis certain que si Rome a réussi, Paris peut y arriver.
Une proposition qui cible une entreprise, le business avec ces autocars, mais vous ne me répondez pas sur ceux de nos concitoyens
horizon,
qui sont en difficulté.
À parce horizon que, 3 ans.
Benjamin Griveaux, vous nous parlez des primes à la conversion. Les critères sont très contraignants et les montants ne sont pas forcément à la hauteur. C'est au maximum 5 000 euros.
Mais vous savez que ce qu'avait prévu le gouvernement...
Ça concerne en réalité peu de monde, vous savez.
Vous savez que ce qu'avait prévu le gouvernement sur les primes à la conversion, les Français se sont emparés de ce dispositif. Puisqu'on est x2 ou x3 par rapport à ce que nous avions prévu lorsque la prime a été mise en place. Que la transition se fasse difficilement, c'est un fait. C'est vrai. Et il faut aussi pouvoir, et c'est tout l'objectif de la loi sur les mobilités qui vient d'être adoptée, investir dans les mobilités du quotidien. Vous savez, pendant des années en France, pendant des décennies, on a mis beaucoup d'argent dans le TGV. Le TGV, c'est 200 000 personnes par jour. Les mobilités du quotidien, c'est-à-dire les RER, les TER, les Transilien, c'est 4,5 millions de personnes par jour. Nous, on va mettre l'argent là où les gens en ont besoin, sur les transports du quotidien et les transports collectifs. C'est aussi un bon moyen de créer une alternative à la voiture.
Alors, parlons d'une autre nouveauté de ce 1er juillet 2019. C'est le retour de l'encadrement des loyers à Paris. Que dites-vous à tous ceux de nos concitoyens qui ont acheté un petit appartement pour construire un capital, pour avoir un petit peu de revenus en plus ? Ils ne sont pas forcément tous extrêmement riches. Tant pis pour eux ?
Je ne dis pas tant pis pour eux. Ce que je dis, c'est que Paris est une ville qui est en train de se vider de ses classes moyennes. On a perdu 60 000 habitants en 5 ans. Et donc, je dis à ces petits propriétaires, une ville qui perd ses classes moyennes, une ville qui perd ses habitants, une ville dans ma circonscription, dans le 3e arrondissement, le cœur de Paris, il y a une école qui a fermé. Pas une classe, une école. Une ville qui se dépeuple, qui perd ses habitants, à la fin, c'est une ville où il ne fera plus bon vivre et où donc il ne fera plus bon être propriétaire. Il faut permettre à ces classes moyennes de rester à Paris. Qu'est-ce qu'on a à Paris ? On a un problème très simple. Il y a un marché social qui est présent, qui permet à des milieux populaires, à des gens qui ont des revenus modestes, de vivre à Paris. Et puis, il y a le marché libre. Sauf que quand vous n'êtes plus éligible au marché social, vous tombez dans le marché libre. Vous pouvez avoir été augmenté de 15 ou 20% dans votre salaire parce que vous changez de job. Le problème, c'est que votre loyer, lui, il fait plus 100%. Et donc, vous ne pouvez pas tenir. Et c'est souvent le cas. Quand on a, même à Paris, un premier enfant, on dit souvent on campe. Et au deuxième enfant, on déménage. Mmh. C'est ce qui est en train de se passer. C'est aussi ce que je dis à ses propriétaires, parce qu'il y a des grands fonds, et là c'est autre chose, ce sont des gens qui spéculent sur l'immobilier, mais il y a aussi des petits propriétaires. Ah oui. Une ville où il fait bon vivre, c'est une ville où les habitants restent, où les écoles ne ferment pas, et on a des services à la population, c'est ce à quoi je vais m'atteler dans les mois qui viennent.
Donc à eux de faire un effort sur leurs revenus locatifs, c'est ce que vous dites, hein, pour l'intérêt général de la ville, c'est votre position.
Vous le savez, les loyers, moi je suis arrivé à Paris en 1995, les prix de l'immobilier ont fait x4 ou x5, les salaires n'ont pas fait x4 ou x5.
Bien sûr. Une réaction à cet événement d'actualité qui a beaucoup ému ému. L'évacuation de militants écologistes sur le pont Sully à Paris, c'était vendredi, avec usage d'aérosol lacrymogène par les CRS. Que dites-vous de cette intervention ? Est-ce que vous considérez, comme beaucoup, que l'usage de la force était excessif ?
D'abord, moi, je me suis posé des questions quand j'ai regardé cette vidéo, qui est une très longue vidéo, hein, puisqu'elle dure un peu plus d'une dizaine de minutes.
14, exactement. Oui.
Voilà. Mmh. Et donc, on y entend, enfin, on y voit, évidemment, l'usage des lacrymos, on y entend les sommations en amont hein, de l'usage des lacrymos. Moi, j'ai trouvé que la réaction du ministre de l'Intérieur était la bonne, à savoir une réaction rapide, à demander une enquête au sein de la compagnie républicaine de sécurité, et puis un rapport au préfet de police, et donc on attend l'établissement de ce rapport.
Mais vous, pour vous, mais il y a un blocage de la circulation, hein, c'est la liberté de circuler.
Il y a un blocage de la circulation.
Est-ce qu'ils n'ont pas finalement fait restaurer l'ordre ? Quel est votre sentiment là-dessus ?
Vous le savez, je ne suis pas défavorable à ce que l'ordre public règne sur la voie publique et qu'on ait un usage proportionné de la force face à certaines manifestations. Je crois qu'il est important d'attendre le rapport du préfet de police qui nous dira si l'usage de la force était proportionné.
Alors l'ordre public à La République En Marche aussi. Vous êtes nombreux à vouloir remplacer Anne Hidalgo au poste de maire de Paris. Hugues Rançon, Anne Le Breton, Mounir Majoubi, Cédric Villani, qui fait jeu égal avec vous dans le dernier sondage la semaine dernière.
C'était déjà le cas en septembre dernier.
C'était déjà
dernier.
Le cas. Il fait jeu égal avec vous. Finalement, je vous pose la question parce que vous passez tous un grand oral hein, devant la Commission nationale d'investiture la semaine prochaine.
Le 9 juillet,
avec une décision qui devrait intervenir le lendemain. On n'est pas entièrement sûr, mais je vous pose une question toute simple. Finalement, pourquoi pas lui ? Pourquoi vous et pourquoi pas Cédric Villani ?
Mais je vais vous dire, c'est aussi la raison pour laquelle on a une commission nationale d'investiture. Moi, je ne crois pas que les sondages doivent départager qui que ce soit à un an d'une élection. Les sondages encore récents sur les élections européennes nous ont donné beaucoup d'enseignements sur la fiabilité des instituts. Et donc, s'il y a bien une chose dont il faut se méfier à un an des élections, ce sont les sondages. Mmh. On a une commission nationale d'investiture qui a fait un très bon travail. Elle a permis à d'excellents députés d'émerger, d'être élus députés. Hugues Rançon, Cédric Villani, Mounir Majoubi et moi-même, on a été choisi par cette commission nationale d'investiture il y a 2 ans. C'est un bon mécanisme qui permet de faire émerger des talents et qui permet surtout de mettre de côté les batailles d'ego qui, je crois, n'intéressent pas les Parisiens. Moi, quand on m'interpelle dans la rue, on parle de propreté, on parle de transport, on parle de sécurité, on parle de loyers trop chers, de logement, mais on me parle assez peu des guerres d'ego. Donc nous, on a choisi de mettre la bataille sur le terrain des idées. Chacun fait des propositions et c'est une bonne chose qu'on ait de nombreux talents à La République En Marche parce que dans le sondage que vous évoquez où je fais jeu égal avec Cédric Villani, il y a aussi Mounir Majoubi qui est devant et qui devance Anne Hidalgo.
Avec 22%.
Exactement.
Et donc, ça veut dire qu'on a... Cédric Villani, pour préciser.
Exactement. Ça veut dire qu'on a des talents, qu'il y a une demande, une envie d'alternance à Paris, qu'on va porter ces projets. Et je vous le dis, nous serons rassemblés et réunis, quel que soit l'issue de cette commission nationale d'investiture. Chacun a eu l'occasion de le dire et de le rappeler à maintes reprises.
Vous avez cette certitude, mais on peut en douter quand on observe le déroulement de cette désignation, puisque vos adversaires, quasi unanimement, mettent en cause la sincérité de la commission nationale d'investiture. Ils semblent douter de son indépendance vis-à-vis de vous, parce que, on le sait, vous êtes très proche du patron du parti, qui est Stanislas Guérini. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Mais d'abord, Stanislas Guérini ne siège pas dans la commission nationale d'investiture. Ça n'est pas moi qui en ai fait la composition. Je vais vous dire, chacun se rendra devant la commission nationale d'investiture. C'est donc la preuve que la procédure, elle convient à chacun.
Et ensuite,
nous nous rassemblerons. Parce que, par-dessus tout, nous souhaitons porter une alternative à la manière dont la maire de Paris a géré la ville ces dernières années. Mmh. On veut remettre de l'ordre dans l'espace public et on veut rendre aux Parisiens le plaisir et la fierté de vivre à Paris.
Est-ce que vous savez, Benjamin Griveaux, si le président de la République vous soutient ?
Ce que je sais, c'est que le président de la République était au Japon, qu'il est à Bruxelles et qu'il a sans doute d'autres chats à fouetter et qu'il prépare un G7 qui va être un G7 important pour la France. Et je vous le dis, moi, ce que j'ai cherché à bâtir depuis des mois, c'est d'avoir un soutien large au sein du mouvement, au sein des marcheurs parisiens, mais aussi auprès d'autres formations politiques que les nôtres. Et je me réjouis, par exemple, que Éric Azière, le président du groupe UDI au Conseil de Paris, ait fait la démarche de vouloir s'associer à la démarche que moi j'ai engagée et d'autres viendront bientôt.
Bon, vous n'avez pas
c'est
répondu.
Cela.
Vous n'avez pas répondu.
Moi, qui m'importe.
Ma question, c'est est-ce que vous savez s'il vous soutient ? Pas est-ce qu'il vous soutient, mais est-ce que vous avez des échanges
je
avec lui ?
Je n'ai pas l'habitude de parler de mes échanges avec le président de la République et donc je ne vais pas rompre cette pratique qui est la mienne depuis maintenant plus de 2 ans.
Vous connaissez Carola Rackete, qui était la capitaine du navire Sea-Watch 3. Elle a accosté de force, de manière illégale, à Lampedusa en Italie. Elle est en résidence surveillée. Elle risque 10 ans de prison. Qu'en dites-vous ?
Que sauver des vies, ce n'est pas un crime. que l'accueil des personnes en détresse, quand on est en Europe, c'est un droit inaliénable. Et que cet énième épisode et cette énième instrumentalisation par messieurs Salvini et consorts démontre l'impérieuse nécessité pour l'Europe d'apporter une réponse de solidarité ensemble. Et je le dis, les élections européennes, monsieur Salvini et madame Le Pen ne les ont pas gagnées. Ouais. Ça n'est pas leur vue sur cette question migratoire qui l'a emporté.
Le problème.
Est-ce que ça veut dire qu'on accueille la totalité sans vérifier les demandeurs d'asile, les migrants économiques? Bien sûr que non. Mais en revanche, ça veut dire qu'on mettra des moyens sur Frontex. Ce sont des gardes-frontières européens. Et cela, nous le ferons parce qu'au sein du Parlement européen, le groupe central, c'est celui constitué notamment par La République en Marche.
Nous allons devoir arrêter cette interview, Benjamin Griveaux. Le problème, c'est que Christophe Castaner avait dit à l'époque que les associations humanitaires se rendaient complices des passeurs. Donc
sauver
c'est difficile
des vies,
pour vous de défendre.
Sauver des vies, je le rappelle, ce n'est pas un crime.
Merci à vous,
merci
Benjamin Griveaux.
Merci David Doucan. À
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
À toute vitesse, la météo de Laurent Cabrol, l'essentiel de l'info, la revue de presse de David Abiker. On a encore du pain sur la planche et le journal de la Coupe du Monde féminine de foot avec Jérôme Lacroix. À tout de suite.
Il est 8h28. À suivre l'essentiel de l'actualité, tout de suite, la météo, Laurent Cabrol.
Avec un rappel, des orages sur l'Auvergne, le Dijonais, les Vosges et les Alpes, surtout cet après-midi. Dans le sud-ouest, le ciel est couvert, il va se dégager dans le courant d'après-midi aussi. Sur le littoral de la Manche, sur Paris, Champagne-Ardenne, nous avons pas mal de nuages à Paris. Les orages menacent, mais il y aura une averse simplement orageuse. En ce qui concerne le Limousin et la Lorraine, petite chance d'onder, là aussi, à caractère orageux. Les températures, allez, 32 à 37 encore, Marseille, Saint-Etienne, Grenoble, 37 à Lyon, Paris 26, et puis sur la moitié nord quand même, entre 22 et 25, pas plus. Si j'osais, je vous dirais que ce sera une semaine estivale, mais que la semaine prochaine, ce sera presque automnal. Oh non, j'exagère.
Ah non
oui,
j'exagère, mais pas beaucoup.
Il est dingo ce Cabrol.
Pas beaucoup.
À tout à l'heure, Laurent.
Nous sommes le lundi. 7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Lundi 1er juillet, c'est l'heure de
du brevet l'actualité. Des collèges.
Oui,
du brevet
aussi,
dans une demi-heure. Céline, pour les élèves de 3e, il commence par l'épreuve de français avant d'attaquer les maths, l'histoire, géo et les sciences. Deux jours d'épreuve décalée à cette semaine en raison de la canicule de la semaine dernière. Les personnels des maisons de retraite et les professionnels de l'aide à domicile se mobilisent aujourd'hui. Ils dénoncent leurs conditions de travail difficiles, la rémunération trop basse, rassemblement prévu à Paris devant le ministère de la Santé. En ce 1er juillet, des changements qui vous concernent, la baisse des tarifs réglementés du gaz, moins 6,7%, la hausse des allocations chômage, plus 0,7%, le retour de l'encadrement des loyers à Paris, l'interdiction de la circulation des voitures à vignette critère 4 et 5 dans la capitale et la petite couronne, et les nouvelles règles du contrôle technique pour les véhicules diesel.
Europe 1.
Il est 8h33, je finis de me réveiller Pierre, pour vous dire que c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker.
Bonjour David.
Bonjour Pierre, bonjour Céline, bonjour à tous.
À la une ce matin, quelques pas en avant et un grand pas en arrière.
On commence par le grand pas en arrière. Mm-hmm. Le grand pas en arrière, on le doit au Japon qui reprend aujourd'hui la chasse à la baleine. Après tant d'interruptions, le Japon reprend ses harpons, titre Le Figaro. Paradoxe noté par Le Monde, l'activité reprend deux jours après la signature en grande pompe de la déclaration finale du G20 d'Osaka. Les participants y reconnaissent l'urgence de traiter des problèmes et des défis globaux complexes concernant l'environnement, notamment la perte de biodiversité.
Tu m'étonnes.
Alors, elle a bonne mine en photo dans les journaux, la biodiversité. Elle pèse plusieurs tonnes, la biodiversité. Elle a le flanc éventré, la biodiversité, et elle dégouline de sang suspendu à la proue d'un baleinier nippon. Depuis 30 ans, le Japon avait renoncé à la pêche commerciale pour une pêche scientifique à la baleine qui l'a conduit à chasser, excusez du peu, 17 000 spécimens en 30 ans. Dès ce matin, les bateaux sont repartis, les harpons sont armés et les navires ne pourront pêcher que dans les eaux territoriales du pays. Pour le Japon et son Premier ministre, explique Le Monde, c'est un symbole, c'est important pour les ONG, c'est un grand pas en arrière. Alors on se consolera des quelques pas en avant de Donald Trump en Corée du Nord. Si jamais la paix mordait à l'hameçon, ce pourrait être une pêche miraculeuse.
C'est quelques pas largement commentés dans les éditos ce matin.
matin.
Il arrive que Trump puisse surprendre agréablement, écrit Pascal Coqui dans les dernières nouvelles d'Alsace. C'est un peu la tonalité ce matin des éditos. La presse n'ose pas critiquer Donald Trump. Pas trop fort, Patrick Saint-Paul dans le Figaro en convient. Trump a définitivement fait voler en éclats les codes de la diplomatie classique d'un tweet. Il a effacé 65 ans d'histoire. En devenant le premier commandant en chef à franchir la ligne de démarcation entre les deux Corées, l'image est à la fois surréaliste et historique. Dans l'opinion, Jean-Dominique Mercher y trouve une certaine logique. Trump n'est pas un homme de guerre. S'il pratique le rapport de force, il semble savoir s'arrêter à temps. Et l'éditorialiste donne trois exemples récents. Sa rencontre impromptue avec Kim Jong-un, dimanche, l'annonce de la reprise des négociations commerciales avec la Chine et le renoncement récent à des frappes militaires contre l'Iran. Et Jean-Dominique Mercher de conclure que le président américain ne regarde pas le monde, il regarde ses électeurs car il veut être réélu. Pour y parvenir, il doit éviter de jouer les va-t-en-guerre et apparaître comme un mal dominant des relations internationales.
D'autres marcheront aujourd'hui, mais pour protester les personnels des maisons de retraite.
Après une mobilisation historique, ils redescendront dans la rue aujourd'hui, brassard au bras ou en défilant sous les fenêtres du ministère de la Santé, annonce le Parisien aujourd'hui en France. Et cette fois, leur action sera soutenue par les directeurs des maisons de retraite. Ça, c'est nouveau. Patrick Chanvert, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, tape du poing sur la table. On a été patient depuis 1997. Notre secteur attend des mesures de soutien. On est au maximum des dysfonctionnements et la demande d'accueil ne cesse d'augmenter. Pour lui, il faut créer tout de suite 40 000 emplois pour les établissements et les services à domicile. Une situation dont la canicule a souligné l'urgence. Malgré les dispositifs d'alerte et d'information, si la canicule se prolonge, comme en 2003, il redoute 6 000 à 8 000 morts dans les établissements. Pendant que ceux qui font le boulot que personne ne veut faire ce souci de la santé des anciens, les pages santé du Figaro étudient les bleus à l'âme des people. C'est l'été, les tabloïds vont envahir les plages, il faut bien se soucier de la santé mentale des vedettes. Les stars ne souffrent pas de la canicule, expliquent les psychiatres, mais d'une suractivité cérébrale qui les rend aussi créatives que sujettes à la dépression et aux addictions. Pauvre chat. Notre compassion ira pourtant ce matin aux 2500 pigeons voyageurs sauvés de la canicule non par les personnels d'un EHPAD, mais par les pompiers, raconte Sud-Ouest. Les 2500 volatiles ont failli mourir de chaleur dans le camion qui les transportait d'Allemagne en France, où ils devaient être relâchés. Ce sont les pompiers ce week-end, les pompiers bordelais, qui les ont sauvés de la soif en versant 1400 litres d'eau dans leur camion transformé en fournaise. Voilà donc une drôle d'époque, à l'heure des réseaux de communication ultra rapide, une époque qui fait faire en camion des milliers de kilomètres à des pigeons voyageurs, sauvés de justesse par des pompiers. Ce matin, mieux vaut être un pigeon voyageur qu'une baleine qui nage dans les eaux territoriales japonaises.
Merci, c'était la revue de presse de David Abiker.
Il est 8h38, le journal de la Coupe du Monde féminine de foot, c'est maintenant avec Jérôme Lacroix. Europe 1 est la radio officielle de la compétition.
La Coupe du Monde féminine,
l'événement foot est sur Europe 1.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin.
Que reste-t-il de la passion qui a animé les fans français des Bleus trois jours après l'élimination? Lyon, épicentre du foot mondial au féminin, les deux demi-finales et la finale s'y tiennent jusqu'à dimanche. Et puis premier affrontement pour une place de finaliste. États-Unis, Angleterre, demain, des milliers d'Américains ont déjà débarqué dans le Rhône.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1, radio officielle.
200 000 jeunes filles licenciées foot en France l'année prochaine contre 185 000 aujourd'hui. C'est l'objectif post-mondial de la Fédération française de football dont les responsables espèrent ce sursaut de la pratique dans le sillage des Bleus et de leur capitale sympathie au Zénith. Alors oui, c'est vrai, l'histoire sportive s'est arrêtée un peu tôt, vendredi soir, mais à entendre Kenza, jeune footballeuse de 14 ans, l'effet Miss Cool est bien là encore et il fait changer les regards.
C'est vrai que pour s'installer dans un groupe de garçons, c'est assez difficile. Une fille comme ça, les garçons, ils vont pas l'accepter dans leur équipe normalement, globalement. Alors que là, les garçons, ils viennent me chercher pour que je joue au foot avec eux et tout ça.
Des propos recueillis à Bordeaux par Stéphane Place. Si les Bleus ne sont plus en lice, la compétition continue. Bienvenue à bord d'un bus de la délégation de l'équipe américaine, des proches, des joueuses, les amis, la famille, vidéo postée sur Twitter par la fédération, il y a de l'ambiance. Pour tous ses proches, direction Lyon, ville théâtre des demi-finales et de la finale. Première demi-finale demain, États-Unis-Angleterre, et les supporters américains sont déjà bien arrivés à Lyon. 17 000 sont attendus dans la capitale des Gaules d'ici dimanche, la finale. Pour le match de demain, par exemple, ils ont acheté le tiers des places. Ah ouais. Les joueuses sont-elles arrivées à Lyon samedi et elles se sont entraînées hier au Groupama Stadium.
Un stade, une ville que certaines joueuses américaines connaissent déjà.
Notamment les deux superstars, Megan Rapinoe et Alex Morgan, qui ont joué à l'Olympique Lyonnais, l'un des meilleurs clubs du monde, 6 fois titré en Ligue des Champions. L'homme à l'origine de leur venue, c'est Jean-Michel Aulas, le président de l'OL. Rapinoe, Morgan, de vraies stars, symbole, dit Aulas, d'un savoir-faire américain.
Les États-Unis ont cette vertu de mettre en avant véritablement un système où la promotion va avec la performance. Et du coup, on a des personnalités exceptionnelles. Donc que ce soit Megan Rapinoe ou Alex Morgan, qui sont des stars dans leur pays. Et elles expriment, on le voit d'ailleurs actuellement, tout haut ce qu'un certain nombre de personnes pensent tout bas.
Megan Rapinoe qui ne chante pas l'hymne national pour protester contre la politique de Donald Trump, qui a annoncé qu'elle n'irait pas à la Maison-Blanche pour une récompense en cas d'éventuel titre. En revanche, elle irait bien visiter la Chambre des représentants à Washington. Elle a répondu favorablement à l'invitation via Twitter d'Alexandria Ocasio-Cortez, étoile montante des démocrates.
États-Unis, Angleterre, première demi-finale, c'est demain à 21h.
Et la seconde, mercredi soir, à la même heure, Suède, Pays-Bas, avec eux. Les supporters néerlandais, c'est un spectacle à voir. Une nouvelle vague orange attendue à Lyon. Ces fans hollandais qui ont pour l'instant, comme vous l'entendez ici, enchanté toutes les villes où leurs ouailles ont joué.
Merci, c'était Jérôme Lacroix. À demain.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Ne bougez pas, surtout la star arrive. C'est Nicolas Canteloup, sa revue de presse avec Julia tout de suite.
On reste sur Europe 1, il est 8h41. Il est 8h43.
Voici Nicolas Canteloup et Julie.
C'est presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup en best-of. Allez, on va parler maintenant du lancement de ce site de troc auquel participent des stars. Vous avez peut-être vu ça sur Indigo. Le chanteur M échange un cours de guitare. Le guitariste Yarol Poupeau propose une paire de chaussures ayant appartenu à Johnny Hallyday. Ségolène Royal, bonjour.
Oui.
Ça doit vous parler, ce site qui combat la surconsommation.
Oui, bonjour Madame Julie, Monsieur Devinou, Madame D'Acousta, Monsieur Opoti, Monsieur Obiquer, Monsieur Cabrol, Monsieur Clous. Hein? Oui, j'aime beaucoup ce site de troc. Hein, d'ailleurs, moi-même, j'échange un poste d'ambassadrice d'épaule contre un poste de ministre d'Emmanuel Macron.
Oh bah tiens, hein,
n'importe lequel, je prends.
Pas sûr que ça marche. Hein,
bon, ok. Alors écoutez, j'échange mon poste d'ambassadrice d'épaule contre les pompes de Johnny, c'est du 43. C'est pas grave, je mettrai des semelles. Oh hein. C'est toujours mieux que de se cahier avec des ours poulets. Hein.
Bon, alors merci, Ségolène Royal. Merci.
Attendez, pendant que je suis à l'antenne, oui. Si vous permettez, je voudrais revenir sur le truc. Hein, j'échange un slip kangourou de François contre un appareil à raclette, si ça intéresse quelqu'un.
Oh, s'il vous plaît, non.
Les élastiques sont un peu détendus.
Oh non, stop, arrêtez. Bon, Ségolène Royal, mais elle est folle. La reconstruction de Notre-Dame de Paris bénéficiera de pas loin d'un milliard d'euros de dons. Hein. On est en ligne avec le ministre de l'économie. Bonjour, Bruno Le Maire.
Bonjour, voilà. Maintenant, allez-y, vous pouvez lever la benne. Mais... décharger. Voilà. Encore. Décharger.
Monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes déjà sur le chantier de Notre-Dame?
Non, pas du tout, madame Julie. Pardon, je suis occupé. Je suis à Bercy, nous déchargeons le pognon. Nous recevons des camions de pognon. Attendez un instant. Jérôme, Mamadou, Célestin, prenez des pelles qui sont dans l'autre tas de billets de 500. Hein, voilà, vous faites un gros tas avec les deux tas. pour faire la place. On attend encore les 12 semi-remorques des Bettencourt. D'ailleurs, j'ai d'ailleurs ma liste de milliardaires. Pinot, Arnaud, Bettencourt. Je ne vois pas votre nom, monsieur Aliaga.
Non, il est juste au-dessus du mot.
Juste au-dessus. Vous mettez combien de millions, monsieur Aliaga?
Écoutez,
vous
n'avez
pas
d'abord.
Fait votre petit chèque.
Oh, on va réfléchir, hein, Nikos.
Bon, je ne vais pas sur ce terrain glissant.
Oui, vous ne devriez pas.
Alors, certaines fortunes, comme les familles Pinot, Arnaud ou Bettencourt, ont donné 100, 200 millions. Mais c'est énorme, ça. Hein,
oui, là-dessus, il n'y a pas de débat.
Comme vous dites.
Et en plus, il n'y a que de toutes petites contreparties. Par exemple, Bernard Arnault demande juste que les prêtres soient habillés avec des robes en toile Vuitton. Pareil, la famille Bettencourt, je peux la citer, demande à ce que les encensoirs soient remplis, non pas d'encens, mais de parfums de chez Lancôme.
Ah, tiens, vous avez reçu un texto, là.
Ça, alors, c'est une bonne nouvelle.
C'est qui?
Attendez,
c'est
qui? Je vous confirme. Oui, c'est le groupe McDonald's qui m'écrit. McDo fait un don, tenez-vous bien, vous pouvez l'annoncer en exclusivité sur Europe 1, de 300 millions d'euros.
Oula. Ouais.
Alors, il faudra juste remplacer les hosties pendant la messe par des cheeseburgers. Écoutez, moi, je suis plutôt OK. Tant qu'on prend du pognon, je suis OK. Attendez un instant. Déchargez le tas de pognon qui est déjà là-bas. C'est l'instinct, Madmadou. Voilà. C'est bon, ce soir, je vais nager dedans. Ah. C'est comme dans Picsou,
oui,
dans Picsou Magazine.
Voilà.
J'adorais cette BD qui a inspiré ma carrière.
Aux États-Unis, c'est une première. La républicaine Lori Lightfoot a été élue maire de Chicago. Elle est la première femme noire, homosexuelle, élue maire d'une grande ville américaine.
Tout à fait. Bonjour Meloukoum, ça va?
Bertrand Delanoë, bonjour. Ça fait plaisir.
Madame Vindy, elle est là, Vindy Bouchard.
Vindy. On me donne tous les prénoms possibles.
Alors, oui, c'est moi, vous m'avez reconnu. Bon, écoutez, alors au sujet de Lori Lightfoot, sincèrement, maire d'une grande ville, noire et homosexuelle, franchement, ça va, on va pas non plus lui décerner une médaille non plus. D'autres l'ont fait avant. À Paris, par exemple, il y a une dizaine d'années, pardonnez-moi, vous avez un souvenir de quelqu'un qui était...
C'est Bibi. Bien sûr, non, mais attendez quand même. Hein. Maire d'une grande ville, ok, homosexuel, ok, mais vous n'êtes pas noir, hein, monsieur Delanoë.
Je sais, cher Julie Leclerc, merci de me le rappeler. C'est pourtant pas faute d'avoir essayé, mais voilà, j'ai une peau de roue. Trop sensible. Écoutez, j'ai beau me faire des UV 12 heures par jour, je reste blanc comme un cul. Que voulez-vous? Non, franchement, quelle frime la maire de Chicago. Je comprends, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Pardonnez-moi, je suis troublé.
Oui, ça s'entend.
Il reste beaucoup de chemin à faire pour m'égaler. Oui, il faut encore installer des Vélib, organiser Chicago plage avec des Américains sur du sable en pleine 4e avenue. Et là, on verra si elle est mieux que moi.
Ah bah oui, on verra. Merci Bertrand de la nuit d'être passé. On adore quand vous venez nous voir. Les stars du monde entier se mettent à boycotter des hôtels qui appartiennent au sultan de Brunei, comme le Meurice à Paris ou le Plaza Athénée, car la loi prévoit que les homosexuels et les personnes coupables d'adultère doivent être lapidés. On va appeler un dirigeant d'un groupe hôtelier célèbre pour nous en parler.
Bonjour à vous et bienvenue à les hôtels à coups. Hello Tabou, and welcome at the Hotel Zaccord.
Ah ben oui, c'est vrai, Nicolas Sarkozy.
Buongiorno Tabou, et bienvenuto à les Hotelos Accordo.
C'est vrai qu'il est toujours au conseil d'administration des Hôtels Accord, monsieur Sarkozy.
Les Hôtels Accord vous accueillent tous les jours dans des hôtels accueillants qui n'appartiennent à aucun sultan tyranniste, ni aucun méchant grand vizir qui lapide les gens et qui ont le zizi baladeur. Envie de tromper votre femme dans un cadre chaleureux et discret? Les Hôtels Accord vous proposent une sélection de chambres garnies de waterbed avec miroir au plafond, labellisé Aliagas, pétales de rose, ainsi qu'une large gamme de disques vinyles de Barry White rachetés à Europe 1. Alors, venez faire l'amour à votre babysitter, votre boulangère ou même la sœur de votre femme dans un de nos hôtels Accord.
Monsieur...
Le personnel Accord, formé à la discrétion, saura baisser les yeux et regarder ailleurs.
Monsieur Sarkozy,
Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces stars qui boycottent les hôtels qui appartiennent à ce sultan, le sultan qui lapide les homosexuels, par exemple ?
Les hôtels Accor accueillent tous leurs clients, qu'ils soient homosexuels, hétérosexuels ou même les deux. Envie de découvrir des sexualités alternatives dans un cadre coquin et sophistiqué ? Les hôtels Accor vous proposent un large choix de bougies, de masques vénitiens ainsi que de gels intimistes. Notre personnel de maison, spécifiquement formé à ne pas vous lapider, saura vous accueillir. La direction s'engage à ce qu'aucun caillou ne soit jeté sur vous ou votre famille ou votre ami moustachu. Alors, à bientôt dans les hôtels Accor.
Merci à Nicolas Canteloup et aux auteurs Laurent Vassilian, Arnaud Demanche et Philippe Cavrivière. Le tour de la question arrive, c'est tous les matins de 9h à 11h avec vous, Wendy Bouchard. Bonjour ma chère Wendy.
Bonjour cher Pierre, bonjour à tous. Avec deux sujets comme chaque jour. Premièrement, jusqu'à 10h, quel écolo êtes-vous ? Je vais vous poser la question parce qu'entre les locavores, les véganes, les anti-pesticides, les anti-nucléaires, on ne sait plus très bien que mettre sous le vocable d'écologue, d'écologiste. En tout cas, l'environnement est-il pour vous une politique d'avenir où on peut craindre une dictature verte, disent certains. On réagira notamment aux mots assez durs sur le sujet de Pascal Bruckner, qui dit en tout cas que l'écologie est à un tournant. Qu'est-ce qu'on en fait ? Julien Bayou, Alain Bougrain-Dumour, Corinne Lepage, Noël Mamère seront avec vous et avec nous et vos témoignages au 39-21. Puis à 10h, on vous demandera avec Julie si vous avez déjà participé à un festival d'été. Il y en a 3000 en France, 150 000 saisonniers, 60 000 festivaliers, c'est quelque
très
chose.
Très différent d'ailleurs.
Très
théâtre,
différent.
Théâtre, musique.
Exactement. Alors on ira un peu partout, à Ramatuelle, à Arles. Nous parlerons théâtre en effet, photos, séries aussi. Des festivals qui souvent
bowling,
soutiennent l'économie pétanque. D'une région. Oui, il y a des noms qui sont totalement associés à leur festival. Avignon, entre autres. Voilà.
Bowling, j'aime bien.
Avec Jacqueline Frangeau, Nicolas Briançon notamment. Et le festival de bowling, vous le créez demain chez vous, on y vient. Merci.
Avec The Dude, de Big Lebowski. Merci Wendy Bouchard.
À suivre, on a mis tout. Et l'essentiel de la matinale, juste avant 9h sur Europe 1. Hein.